You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Vous vous demandez à quoi ressemble la vie d'un critique de cinéma ? Découvrez l'horrible vérité dans chaque épisode de la Réu d'écran large, avec les discussions, les débats et les engueulades de l'équipe.
Bon, on va Réu ?
C'est quoi le truc le plus sale qui a pu vous arriver dans une salle de cinéma ? Est-ce qu'il vous est arrivé un truc alors, vraiment genre
cette question ?
Ok.
Le plus sale.
Le sale, dans quel sens ?
Ça peut être un peu graveleux, ça peut être cradingue. Voilà. Est-ce qu'il vous est arrivé un truc un peu bizarre dans une salle de cinéma ?
Moi, j'ai vomi dans une salle de cinéma.
C'est pas mal déjà.
Je pense que c'est arrivé à beaucoup de personnes.
C'était par rapport au film ou ?
Non.
Et t'as vomi dans la salle du coup ?
Oui, j'ai vomi dans la salle et une fois c'était pour Ready Player One, juste avant le climax, j'ai eu envie de vomir et je suis sortie de la salle et j'ai pas pu re-rentrer dans la salle après. Du coup, je sais toujours pas ce qui se passe à la fin de Ready Player One.
C'est trop bien comme anecdote. Moi j'étais allé voir un film et je devais avoir quoi 13-14 ans et c'était Kogan Kingdom Softly. Donc tu vois, un truc a priori, tu vois, un peu arty quand même, voilà. Et il y avait quelqu'un qui tapait dans mon siège pendant qu'on regardait le film, tu vois, donc je me dis, ok, au bout d'un moment, c'est un peu chiant, quoi, donc je me retourne pour regarder. Et en fait, il s'avère que le monsieur qui était sur le siège derrière moi avait sa copine qui était sur ses genoux, clairement en train de lui faire une fellation, et que c'était ça qui faisait qu'il tapait dans mon siège, et donc j'ai pas du tout osé intervenir.
Est-ce que t'as changé de place ?
Les gens urbains, j'adore.
J'ai changé de place après, mais surtout, je me suis dit, est-ce que vraiment tu te fais sucer pendant Kogan, tu vois ? Non, mais le choix du film me paraissait
peut-être
un peu.
Peut-être son kink, c'est Brad Pitt. Hein.
Alors, Barbu. Peut-être. Mais tu vois, en plus, Kogan, c'est vraiment le film un peu. Tu sais, c'est un peu sale. Enfin, tu sais, c'est l'Amérique un peu crâne.
Mafieux
et tout,
dégueulasse, ça le.
Visiblement.
Ok, bah en parlant de séances de merde, on va devoir parler des pires et meilleurs films de l'année parce que c'est quasiment le milieu de l'année. Et les gens commencent à chercher sur Google les meilleurs et les pires films. Du coup, on sait que les pires films, ça marche plus. Donc, c'est quoi les prétendants au titre du pire film pour les séances de merde de 2023 ?
Ouais, je peux commencer très fort avec Astérix, hein, qui a quand même été le pire du pire. Mais dès février, hein, quand même, le film, il a fait très fort. Donc, ça a été assez... assez cathartique.
Ok, donc Antoine va continuer sur son Astérix. Toi, Déborah, c'est quoi le pire ?
À côté super-héros, ça fait mal. Hein, entre Shazam 2, Ant-Man 3, ou même côté un peu film qui avait un peu un potentiel, style 65.
Ah ouais, ah ouais. Putain, 65,
la
c'est chaud.
Déception totale.
Et toi, Arnold ?
Moi, je ne me remets toujours pas de Shazam 2. J'avais Shazam 2 dans mon viseur depuis le début.
Et on était avec lui, et on peut en témoigner. Il était très énervé.
Non, c'était infâme. Et c'est vrai que, comme l'a dit Déborah, en plus, juste après, enchaîné avec Ant-Man 3, qui était aussi infâme visuellement, ça a été très 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 difficile.
Mais
donc,
je trouve que Ant-Man 3 est pire que Shazam.
Oui, Ant-Man 3, c'est irregardable.
Ah, tu trouves que Shazam est pire ?
Ah, je pareil. Crois que Shazam, parce qu'en fait, Shazam, c'est vraiment le vide. C'est-à-dire que Ant-Man, c'est raté, mais le film essaye quelque chose, tu vois. Mais vraiment, Shazam, je me suis dit, mais j'ai vraiment l'impression de voir un film écrit par une IA, c'est le pire film du monde. Et en plus, moi, j'ai pas mal de sympathie pour le réal, tu vois, que, en tant que petit faiseur hollywoodien qui s'est un peu retrouvé catapulté sur une grosse machine. Et le mec, tu sens que plus personne n'essaye, les acteurs n'essayent pas, les VFX n'essayent plus, il y a les idées scénographiques ou de juste de séquences de de super-héros, enfin, l'espèce de skybeam pour ensuite te mettre une bulle qui encapsule la ville comme dans les Simpsons le film. Tu te dis,
c'est tellement triste que Lucy Liu, elle.
Ouais, il y a d'autres dragons là, carrière, là, pendant deux heures, c'est, ah non, c'est infernal.
Et d'ailleurs, en parlant de carrière tristement ratée, moi, clairement, Fast and Furious 10, il va être dans les pires films de l'année.
Hein. Je n'ai pas encore vu, j'avoue.
Quel dommage.
Je vais le rattraper bien.
Si t'as 2h35, un truc comme ça, non, ça dure plus de 2h30 ce truc
Ressenti 4h, ouais. Après durée réelle.
Ils sont censés aller très vite et de manière très furieuse, donc c'est bizarre que ça soit, ça paraisse aussi lent.
Mais c'est quand même dingue parce que. Putain, mais moi j'ai grandi avec Pitch Black et les chroniques de Reddick, du coup pour moi Vin Diesel ça aurait dû être quelque chose. Aujourd'hui c'est que les Fast and Furious, quoi. C'est la tristesse, la déchance du mec, vraiment. Putain, quand même il a été révélé par Spielberg, quoi. On parle d'un mec qui a commencé à faire des films pour se montrer lui-même avec des films, des courts-métrages. Spielberg l'a repéré et aujourd'hui il fait que des Fast and Furious, quoi.
Et des mauvais.
Et des
mauvais, parce que si on regarde encore même les Fast and Furious de l'époque, sans compter les premiers, mais ne serait-ce que 4, 5, 6, ça allait encore. Aujourd'hui, ce qui est même devenu, que ce soit Vin Diesel ou la franchise, ne ressemble absolument plus à rien. Et comme tu l'as dit, en plus, ce qui est vraiment très triste, c'est que Vin Diesel, il a du talent. Il l'a montré plusieurs fois à ses débuts et puis même encore un petit peu après. Et c'est un type qui, si il s'était pas enfermé dans ce rôle de Dominic Toretto qui l'a construit pour et par lui, je pense qu'il aurait pu éventuellement avoir une belle trajectoire, ne serait-ce que dans le cinéma d'action, éventuellement.
Ouais, c'est ça que je trouve un peu triste, moi, c'est que quand même, quand on tombe toujours dessus, hein, même sur l'écran large, c'est sûr, on se moque tout le temps de lui, mais en même temps, j'ai toujours une petite part de tristesse parce que j'ai un peu de sympathie pour ce mec en me disant, mais je suis sûr que dans une réalité parallèle, il aurait pu faire des trucs mieux et peut-être qu'un jour il va revenir. C'est peut-être un accident, va l'empêcher de continuer ses merdes. Et...
T'as vraiment l'impression que c'est le mec qui est vraiment devenu la caricature de lui-même. Enfin, en tant qu'enfant des années 2000 qui a grandi avec les parodies de Mosinor sur Baboulinet, tu te dis, en fait, la vision qu'il avait de Baboulinet, qui était déjà franchement très très réductrice de ce que pouvait être Vin Diesel, mais en fait tu te dis Vin Diesel est vraiment devenu Baboulinet maintenant. C'est vraiment les derniers Fast and Furious, c'est vraiment ça, quoi. C'est la famille, tout ça, et ça ne cherche plus à aller au-delà. Donc c'est un peu à quelques exceptions, mais qui sur ces dernières années sont quand même très très limitées. En fait tu te dis, c'est si un cinéaste intéressé et intéressant veut aller le chercher, donc la dernière fois c'était quoi, Ang Lee, ça n'arrive plus en fait. Et comme visiblement il est infernal sur les plateaux, plus personne n'a envie de bosser avec lui.
Mais c'est pour ça qu'il y a une part un peu de tendresse que j'ai pour lui, parce que il a grandi avec sa mère, avec son beau-père. Son père, il le connaît pas, et du coup c'est un truc qu'il y avait déjà dans son premier long métrage et que tu retrouves dans plein de ses films depuis. Alors ça fait un peu teubé de faire sa thérapie au cinéma, mais en même temps je trouve ça assez, en fait j'arrive pas à savoir si ce mec c'est juste genre le faisceau du cynisme absolu à Hollywood, ou s'il y a quand même une part d'imbécile heureux, tu vois, de petit joli dedans, en fait il y croit vraiment dur comme fer. Et ok, c'est une machine de guerre, et ok, il répète la famille, la corona et tout ça, mais est-ce qu'il n'y a pas une part de petite sincérité quand même dans ce cirque complètement ridicule?
Bah, d'ailleurs, son premier long métrage, c'est Strays, c'est ça?
Ouais.
Et il vient d'un court métrage qu'il avait écrit lui-même.
Alors,
justement.
Alors, je sais pas si les deux sont tirés l'un de l'autre, mais.
Ah, parce qu'au début, il me semblait que, il y avait ce côté un peu méta où il arrivait pas trop à percer et du coup, il a utilisé ça dans ses scénarios.
Alors, moi, j'ai pas vu le court métrage, toi, tu l'as vu, Antoine?
Ouais, ça s'appelle Multifacial. Et donc,
c'est pas un porno.
C'est pas un porno, non, c'est pas du tout. Je l'ai pensé aussi. Et surtout, il faut préciser qu'il est allé à Cannes avec ce film-là. Donc, Vin Diesel est allé à Cannes en 1995, quand même. C'est
mais
pas
d'ailleurs, j'ai regardé sur la page. Tu es sur Cannes, tu vas sur festivaldecannes.com, tu tapes le nom d'un artiste ou d'une artiste, tu vois où est-ce que, pourquoi il est venu. Uh-huh. Ce court-métrage n'apparaît pas.
Ah ouais?
Oui, il n'y a que Fast 8, 9, je sais plus, non, le 7 qui était. Non, okay. Il y en a un qui a été à Cannes, je sais plus lequel.
J'aurais dit le 7 au hasard.
Je me demande si en fait il n'a pas été présenté au Short Film Corner ou un truc comme ça, et donc c'est pas comptabilisé. Mais donc effectivement, apparemment, il est à Cannes avec son
court-métrage. Du coup, oui, c'est un film sur lui-même, puisque du coup, il se présente en tant qu'enfant. Multiculturel, donc c'est ça le fameux multifacial, et c'est un mec qui passe des castings mais qui à chaque fois se fait un peu recal, et parce qu'on lui dit justement très souvent que en fait c'est pas vraiment ce qu'on cherche, et souvent c'est d'un point de vue ethnique qu'on lui dit c'est pas ce qu'on cherche, et il tente des trucs. Et là où c'est passionnant, c'est que il parle de son beau-père, du coup, donc la personne qui l'a élevé, donc qui était afro-américain et qui était surtout directeur de théâtre, donc c'est lui qui lui a un peu mis le pied à l'étrier. Et en fait, tout le court-métrage repose autour d'un moment où on lui donne un monologue à faire, et en fait, lui choisit de parler justement de la vie de son père, et de son père est mort, et lui a envie de rendre son père fier en devenant acteur, et en disant bien justement, mon père était un acteur noir, et il ne voulait pas que je sois un acteur noir, il voulait que je sois un acteur tout court. Et pour le coup, ça c'est assez intéressant parce que ça renvoie à pas mal de choses qui reviennent sur la suite de sa carrière, un côté très cosmopolite et une sorte d'ambiguïté sur ses origines, puisque du coup sa mère était blanche avec des origines européennes assez diverses. Il a jamais connu son père biologique et il a été élevé avec ses frères et ses sœurs. Et t'as un peu ce côté, voilà, ça renvoie déjà en fait à cette idée de la famille, mais la famille qui est celle qu'on se crée, qui justement dépasse la question des liens de sang.
Ouais. Et dans son film, t'as dans son premier nom, donc Stray, c'est pareil, c'est l'histoire d'un mec qui vit à New York avec ses potes dans un appartement. Ils passent leur temps à faire des petites combines de drogue, à choper des meufs, à les ramener pour les baiser dans leur appartement, à picoler, à sortir, à parler. Et lui, en fait, il tombe amoureux d'une blanche un peu bourgeoise. Et du coup, c'est comment il se remet un peu en question. Et il y a cette idée de l'absence du père, de la mère pour qui il n'est pas assez présent. Et surtout, il porte déjà un Marcel Blanc. En fait, son Marcel Cinematic Universe a commencé même dans son court-métrage.
Même dans son court-métrage, il est en Marcel Blanc.
C'est
ouf,
ah bah je crois que c'est pour ça en fait que je pensais que les deux étaient liés. Mais en fait non, pas du tout.
Non, alors, c'est même génial parce que dans le court métrage, ça commence sur une scène où il raconte une histoire autour d'un mec, enfin lui qui est dans un resto avec sa meuf et il croit qu'un mec drague sa meuf et en fait c'est un mec gay, mais il va frapper le mec et en fait tu te rends compte que c'est une audition qui passe et lui-même dit en fait après au téléphone il était un peu macho, enfin ça m'a clairement pas aidé. Alors t'as ce côté beauf qui se donne mais qui en fait est une sorte de façade, donc ça c'est déjà intéressant. Et surtout, et ça me fait trop rire parce que c'est plus tard, donc avant qu'il fasse son monologue, le mec de casting lui dit « A priori, tu sais rapper ?» Et il rappe puisqu'il fait, il pose un flow dans la BO du film qu'il a lui-même composé et il pose un flow dans le, dans le court-métrage. Et dans le court-métrage, du coup, l'une des phrases qu'il dit, c'est « Je boirai ton sang comme je bois une Corona. » Et là, tu te dis « Ça ne s'invente pas. »
Non, mais tu vois, incroyable. Cette cohérence dans sa carrière, ça me tue, quoi. Ça me flingue parce que ses films, le court-métrage multifacial et son premier long qui s'appelle Strays, il les a fait pour trois bouts de ficelle à New York, tourné un peu en guérilla, 16 mm et tout ça. Donc, genre, c'est vraiment comme ça que les auteurs commence aujourd'hui. Il y a Darren Aronofsky, il a tourné son film comme ça. Christopher Nolan aussi, tu vois, il commence avec des trucs avec peu de thunes. Et ça me tue que Vin Diesel ait commencé comme ça, quoi.
Et c'est assez dingue. Tu peux véritablement retrouver le lien entre tous les projets qu'a pu faire Vin Diesel tout au long de sa carrière, que ce soit effectivement entre les Marcel Blanc qu'on retrouve déjà au tout début, l'histoire de la Corona, et que quand tu regardes sa filmographie, t'as ce côté ultra paumé des débuts. Ensuite, il y a Riddick. Après Riddick, dans le personnage de Riddick, tu retrouves un petit peu le côté gentil méchant en fait dans le personnage de Dominic Toretto, ce que tu retrouves ensuite dans le personnage de Xander Cage avec les voitures et les cascades et on saute d'un pont avec une bagnole, chose qui fera déjà 10 ans en fait avant de le refaire avant Fast and Furious 4. Et tu trouves toujours en fait comme ça des petites pièces pour relier les projets les uns aux autres de manière assez étrange, et la carrière de ce type est vraiment une énigme. Tu te demandes effectivement comment, à partir d'un petit court métrage et d'un long métrage qu'il a monté effectivement de lui-même en galérant, en étant, de ce que j'ai compris, il était videur de boîte de nuit en fait pendant cette époque, et voilà comment il se faisait de la
thune. D'ailleurs, il connaissait déjà Michel Rodriguez de l'époque où il était videur à New York, il traînait, enfin il se connaissait plus ou moins.
D'accord.
C'est vraiment trop drôle, quoi.
Excellent. Et ouais, donc comment ce gars-là, effectivement, a pu être repéré par Steven Spielberg. Steven Spielberg lui a dit vas-y, j'ai écrit un rôle pour toi, et tout est parti de là, quoi. C'est hallucinant.
Et ouais, non, mais même en parlant de tout ça, genre la figure paternelle, j'étais pas forcément au courant de ça, mais parce qu'on parle de Pitch Black et tout, mais moi j'oublie pas son rôle dans Le Géant de Fer, qui est quand même une prestation assez mémorable, vu qu'il prononce une cinquantaine de mots, et qui du coup là va jouer justement la figure paternelle de substitution par rapport à ce gamin qui, bon, là évidemment on est sur une dimension encore au-dessus parce qu'on parle d'un robot extraterrestre, mais parler des origines et de trouver sa place, et le fait que d'un côté on le condamne à être une arme, dans le cas de Vin Diesel, plus cette grosse paire de bras qui est fondamentalement destructrice, alors qu'en fait c'est un petit cœur tendre. En fait, tout se rejoint, t'as vraiment raison Geoffrey, il y a une matrice dans sa cinématographie, et que ce soit dans son premier cours jusqu'au Géant de Fer et même Fast and Furious et compagnie.
Et super drôle parce que tu parles du Géant de Fer, dans son premier long métrage, Strays, à un moment, pour séduire la fille avec qui il vient de sortir après un rencard, il lui chante la chanson de l'homme de fer blanc en fait du magicien d'Oz pour lui montrer que justement c'est pas une grosse brute, et elle se rend compte que c'est pas un gros dur mais que c'est un type un peu tendre qui se cache derrière cette apparence de gros dur, même si le reste du film nous prouve que leur relation est beaucoup plus compliquée que ça.
Est-ce qu'on est en train de faire de la politique des auteurs sur Vin Diesel en fait, c'est ça qu'on
ouais,
est en train de faire
mais franchement, pas loin. Ouais, quand tu regardes sa filmo, oui, t'as envie, quoi. Et donc, pour récapituler, il a commencé, c'est marrant, en tant que Figu dans, en 1990 dans L'Éveil, qui est un film avec De Niro et Robin Williams, que j'ai pas vu, mais quelqu'un m'en a parlé il y a pas longtemps. Voilà, c'est intéressant. En 1994, il fait son court-métrage, 97 Strays, qui se retrouve à Sundance, et c'est là que visiblement son court-métrage commence un peu à exploser, puisque son agent lui dit, Steven Spielberg me contacte pour te dire qu'il écrit un rôle pour toi parce qu'il a vu ton court-métrage. Mm-hmm. Donc là, le mec, évidemment, il dit, c'est quoi ce fantasme? Quand il en parle aujourd'hui, il dit, c'est un des plus beaux jours de ma vie, quand j'étais sur mon canapé chez moi et j'ai sauté dessus en me disant, mais what the fuck, Spielberg veut que je sois dans son film. Et Spielberg, visiblement, lui a redit des années après que c'est l'acteur, mais aussi le réalisateur qu'il avait engagé parce qu'il voulait vraiment le booster. Et plein de fois, il lui a dit, refais un film en tant que réalisateur. Peut-être pour lui dire, arrête de faire des films en tant qu'acteur. Toujours est-il que donc, 98, il se retrouve avec un petit rôle dans Le Soldat Ryan. Je ne me souviens pas très bien du film. Du coup, c'est un rôle qui est vraiment intéressant ou...
Ouais, ouais, moi, je sais que j'en garde un super beau souvenir. Tout le monde se souvient de sa mort, évidemment, mais le rôle en lui-même est vraiment très, très beau. Il y a notamment une scène où il parle avec... ils arrivent dans un village complètement dévasté et lui, il voit justement qu'il y a des gamins et toute une famille qui se retrouve complètement anéantie. Et il va voir justement les enfants, il essaie de sympathiser un peu avec eux. Et lui joue un rôle de gros bras, un peu justement bourru. C'est un peu le bourru de la bande, mais au grand cœur, finalement. Mmh. Comme toujours, il se fait abattre par un sniper. Il y a un clocher en fait, et en haut de ce clocher, il y a un sniper qui commence à leur tirer dessus. Lui se prend une balle, ses amis ne peuvent plus le récupérer, et donc du coup, il meurt sous ses yeux comme ça, alors qu'ils ne peuvent pas ils peuvent pas aller le chercher.
Alors qu'il essayait de sauver les enfants et la famille qui était à ce moment-là dans le coin. Donc, on y reste encore. Hein. Et c'est vrai que sa mort, elle est au-delà des morts les plus choquantes du climax ou de l'intro, c'est de loin des passages les plus forts émotionnellement du Soldat Ryan dans le deuxième acte.
Ouais, ok. Et surtout, après, il y a le tournant des années 2000 avec Pitch Black et donc le premier Fast and Furious. Et c'est trop drôle parce que dans les deux cas, il ne devait pas avoir le rôle parce qu'il était personne. Et David Toohey, pour Pitch Black, il dit qu'il avait un peu raté son audition, sa première audition, et que les prods un jour lui ont dit, tu sais quoi, on a trop de chance, Steven Seagal peut faire le film. Et il a dit,
mon Dieu,
s'il vous plaît, pitié, non. Et donc, il a convaincu, il s'est un peu battu vraiment pour que Vin Diesel ait le premier rôle. Et ce film, qui était donc un tout petit film fauché, David Toohey avait récupéré le scénario qui n'était pas de lui, il a réécrit, le truc a été pas mal modifié, et c'était vraiment construit comme un film avec un trio, donc avec la pilote, avec le mec, avec Vin Diesel qui jouait l'espèce de bad boy, et les projections test ont été tellement enthousiastes autour de Reddick que du coup ils ont un peu refaçonné le film autour de Reddick, et vraiment tout le monde a fait de ce film un film de Reddick. C'est pour ça qu'après la suite du coup porte le nom de Reddick. Et du côté de Fast and Furious, alors c'est un pur produit de studio qui a été tiré, adapté d'un article sur les courses de voitures urbaines illégales. Et du coup, c'était le producteur Neil H. Moritz qui voulait rebosser avec Rob Cohen et Paul Walker après The Skulls, un grand film des années 90.
Wow.
Et pour le rôle de Dom, c'était notamment Timothy Olyphant qui devait avoir le rôle. Enfin, on lui a proposé, il a dit non. Et Rob Cohen voulait trop avoir Vin Diesel parce que Pitch Black et parce que le court-métrage, encore une fois. Et il raconte qu'il a été le rencontrer dans un restaurant pour... Il pensait que sa mission allait être surtout de convaincre le studio d'engager ce mec qui était personne, ce qu'il a dû faire, mais il s'est rendu compte qu'aussi il allait devoir convaincre Vin Diesel de prendre le rôle. Parce qu'en fait, il était quand même déjà un peu... dit quand il est rentré dans le restaurant où on était, il avait une aura, quoi. Le mec, c'était pas du tout quelqu'un qui avait une renommée de star, et pourtant, il avait déjà un truc, il se comportait comme une star, mais dans le bon sens. Tu vois, le réel dit pas, il se comportait comme une diva, il dit vraiment, il avait le charisme, le rayonnement, vraiment la personne d'une star. Et du coup, il a fallu le convaincre de prendre ce rôle parce qu'il était sûr qu'il allait faire un super dôme.
Cette chose que tu ressens la première fois que tu le vois dans le film Fast and Furious, quand il se retourne, quand il est au fond là, de sa boutique, etc. Justement, c'est le personnage un peu mystérieux, on ne sait pas trop ce qui se passe et tout. Mais ouais, il a ce truc tout de suite. Rob Cohen le chope parfaitement dans le premier Fast and Furious, quoi.
Et même dans Pitch Black aussi.
Surtout quand on y réfléchit maintenant, ça paraît super éloigné de ce qui est devenu Fast and Furious. Mais le premier Fast and Furious, finalement, c'est une sorte de relecture de Point Break. Donc en fait, ce que joue Vin Diesel, c'est Patrick Swayze dans Point Break. Donc, en plus le mec qui est du mauvais côté de la loi, mais il est un peu fascinant. Il a quelque chose en plus qui relève toujours un peu de l'homoérotisme aussi. Tu es attiré par ce mec-là, en fait. Donc, tu as envie d'y aller. Et ce qui marche, étonnamment, ça marche en fait. Aujourd'hui, tu te fais même plus à cette idée-là quand tu penses à Fast and Furious parce que tu penses juste grosse mule chauve qui derrière sa caisse a passé les vitesses 10 000 fois. Mais en fait, il y avait ça à la base dans le premier Fast and Furious qui s'est perdu sur les autres films.
Et d'ailleurs, Rob Cohen, après l'avoir rencontré dans ce restaurant, justement, c'est ce qui aussi a convaincu Vin Diesel d'accepter le projet. Il a dit, après avoir parlé au réalisateur, je savais que je devais le faire. Et lui, apparemment, dans la conversation qu'ils ont eue, c'est qu'ils ils ont développé l'idée que Dominique Toretto était un personnage presque mythologique, en fait, dans le sens d'un centaure.
Non,
dans le sens d'un centaure, en fait.
La racine du mal, c'est là. C'est quand
il est mi-homme, mi-voiture, à savoir que. Alors attends, je t'explique vraiment le truc. Parce qu'en
c'est
fait,
l'avant
c'est
ou la... le derrière? Non, alors,
c'est la bonne question. Mais en fait, c'est la fameuse scène lors de la toute première course, quand ils s'alignent tous sur la ligne de départ et que le départ est donné. T'as Vin Diesel qui passe la première et t'as ce plan qui part de sa main jusqu'au levier de vitesse pour repartir ensuite, qui traverse tout le système. Exactement, en numérique. Et c'est en fait, Rob Cohen apparemment avait cette scène en tête dès le début. Il en a parlé à Vin Diesel et Vin Diesel y a vu quelque chose de mythologique qui... en fait, relie l'homme et la machine et la voiture ensemble. Et du coup, Vin Diesel, attends, c'est une espèce de centaure, en fait, parce qu'il est connecté aux chevaux de sa voiture.
Alors, j'ai deux choses à dire. Déjà, la première, c'est que dans Fast and Furious 10, le plan dégueulasse à la fin, quand ils descendent le barrage, le truc numérique dans le pot d'échappement et tout ça, en fait, c'est un hommage au premier.
Ah bah, peut-être.
C'est le fameux retour aux racines avec les plans cul à Rio.
Oh là là. Et deuxième chose, c'est qu'effectivement, Vin Diesel dit qu'il a signé parce qu'il a adoré ce plan-là qui était censé raconter. Alors, je savais pas qu'il y avait une histoire de centaure, mais pourquoi pas. Et par contre, quand il a lu le scénario la première fois en allant tourner, en tout cas, il a vu le scénario, il était un peu déçu. Et donc, en fait, ils ont fait réécrire le scénario, mais même tout le monde, même Michel Rodriguez, a dit je veux pas jouer cette pouffe, en fait, je veux un personnage qui a une raison d'être là. Et ils ont amené, vous savez qui ? David Ayer. C'est lui qui a réécrit, déplacé l'action de New York à Los Angeles pour en faire un film sérieux, multiculturel, et un truc où les gens, genre Vin Diesel, se disaient « Ok, j'y vais maintenant, le scénario me plaît. »
Ah,
voilà.
En même temps, je trouve pas ça incohérent, parce que tu vois, en revoyant le premier Fast, il y a un truc que j'aime beaucoup dans le film, c'est qu'il va au bout de sa démarche. Et pour le coup, je trouve qu'il y a un truc, tu vois, même dans le côté néon, numérique, tu vois, autant dans les trucs, la grosse musique techno, ça fait déjà un peu de truc qui, surtout aujourd'hui, fait très beauf, et qui l'ancre vraiment dans son époque aussi, vraiment début années 2000. Mais en même temps, t'as déjà aussi tout ce que Ayer fera lui aussi avec Training Day et ses autres films.
Suicide Squad.
Mais je trouve que dans le premier Fast, il y a un truc, tu vois, un peu beauf rigolo, mais qui est tellement à donf dans l'envie d'y aller, tu vois. Et qui est, en fait, limite, je vais désolé d'employer ce mot-là après théorie des auteurs, mais qui est un peu expérimental en fait dans sa démarche, mine de rien, tu vois, dans le côté vraiment numérico nawak. Et je trouve que le film est assez plaisant pour ça. Et là encore, il n'y a que Tokyo Drift qui a réussi à avoir ce truc un peu neuneux qui se prend un peu trop au sérieux sur la suite. Et les autres films n'ont jamais réussi à faire ça, en fait.
Et c'est très drôle que tu parles de Tokyo Drift parce que Justin Lin, justement, lui, c'est exactement ce qui l'a incité à réaliser Fast and Furious. Parce que quand le premier Fast and Furious est sorti, même sentiment que toi et même sentiment que beaucoup de personnes, à savoir que quand il a vu ça, il a dit c'est un nouveau genre de cinéma, c'est une nouvelle façon de réaliser avec un truc ultra énergique, ultra vénère, ultra jeune, qui s'adresse à un public, mine de rien, extrêmement large. Et lui, il a vu une opportunité directe. Mais par contre, comme Rob Cohen, Vin Diesel ou tous les autres, quand Justin Lin il a débarqué sur Tokyo Drift, il a lu le scénario, il a dit c'est une merde sans nom, laissez-moi réécrire ça, je vous en supplie, parce que c'est sexiste, c'est vulgaire, ça n'a aucun sens. Donc
c'est vrai que le changement final est bien meilleur là-dessus. Hein.
Justin Lin, c'est celui qui devait faire le 10 et qui s'est barré de la saga en disant ça me fait chier, j'en ai fait 8, mais franchement j'en ai un peu marre là.
Soi-disant aussi, parce que Diesel était vraiment devenu trop
diva. Il a fait le 9 aussi. Avant, donc me dis pas qu'il a découvert.
Mais je pense que justement, il avait arrêté après le 6, il a du coup le 7. 8 ont été faits par d'autres. Il est revenu sur le 9 et de ce que j'en ai compris, c'est en gros, il a fait le 9 et ça a tellement été l'enfer qu'il a dit plus jamais. Et c'est comme ça qu'il a dit
et
je
fais
pas
fait le 10.
Bah non, du coup, il a pas fait le 10.
Donc du coup, il est parti avant
une semaine.
Oui, mais du coup, il a signé pour le 10, ça que je trouve hallucinant. Il a signé, il a commencé le tournage et il s'est dit c'est tout match. Le mec, si c'était si infernal, pourquoi il est revenu pour le 10
quoi. Donc,
ça, c'est une autre histoire. Peut-être qu'un jour, on en saura plus. En fait, ce que je trouve marrant à l'époque pour revenir à Pitch Black et Fast and Furious, c'est qu'on a eu un peu les deux manières d'avancer, qui sont un peu les deux manières dont Vin Diesel construit sa carrière depuis, en tout cas essaye, c'est que d'un côté, Pitch Black, aujourd'hui on se dit que c'est un film culte qui a marché, mais à l'époque ça a été un succès très modeste en salle. Il a coûté dans les 20-23 millions, 53 millions au box-office, donc c'est pas du tout un carton. C'est vraiment en vidéo, en DVD, que le film s'est rattrapé, est devenu super culte et qu'ils ont pu après faire une suite. Par contre, Fast and Furious a été un giga méga carton, alors que pourtant les gens ne misaient pas trop dessus. Un an avant, il y avait eu 60 secondes chrono, il avait coûté genre 100 millions. Ouais. Le premier Fast, c'est quoi le budget? Attends. C'est genre 30-40, un truc comme ça, non? C'est vraiment, je crois que c'est 38 millions, ouais. Donc ah c'est quand même pas grand chose. Et il a fait un score à peine en dessous de 60 secondes chrono, qui avait coûté 2-3 fois plus cher, et qui était Nicolas Cage, Angelina Jolie, voilà, et Timothy Olyphant, qui devait donc jouer
c'est vrai,
dans le premier Fast and Furious.
Exact.
Elle a bien misé.
Et il y a un moment où il revenait d'un truc au Mexique, Vin Diesel, avec Paul Walker, et ils étaient à l'aéroport, et il raconte, tu vois, avec son sens du storytelling, tu sais jamais à quel point c'est vrai, mais t'as envie d'y croire, comme le centaure mécanique, là. Et ils étaient assis par terre dans l'aéroport, les gens marchaient sans trop les reconnaître, et Paul Walker lui disait, profite, parce que c'est la fin. Après ce film-là, c'est sûr que tout va changer. Voilà, le prophète, évidemment, après, tout a changé, parce que le premier Fast and Furious est un carton, a fait plus de 200 millions au box-office mondial, donc évidemment, tout s'est emballé. Et c'est là que tu vois un peu les deux casquettes. D'un côté, donc la méga star Vin Diesel, et après il va s'engouffrer dedans avec Triple X et tous ces trucs-là. Et de l'autre côté, un truc qui est un peu un projet de cœur auquel il va s'accrocher, un personnage auquel il va s'accrocher, celui de Riddick, et qui n'est pas un giga carton en soi. D'ailleurs, aucun des Riddick n'a été un véritable succès commercial au box-office, en tout cas au cinéma. Et il s'est accroché aux deux. Ça, quand je trouve un petit peu joli chez lui, c'est qu'il aurait pu complètement abandonner à ce moment-là Pitch Black et juste s'accrocher à Triple X, Fast and Furious et tout ça. Mais il y a peut-être une part de lui, peut-être la part d'humain dans le centaure mécanique qui s'accroche à un soupçon d'âme, peut-être.
Peut-être. Je sais pas du tout. Mais après, là où je suis pas complètement d'accord, c'est que Triple X, pour le coup, je sais qu'il l'a fait parce que Rob Cohen, encore une fois, est venu le voir après justement Fast and Furious et il s'est dit vas-y, on refait plus ou moins la même chose, mais avec cette fois des grosses cascades de fous furieux. Et tu joues un rebelle contre le gouvernement qui est en même temps une espèce de James Bond. Lui, évidemment.
Et t'es payé 10 millions contre 2 pour le premier Fast and Furious.
Voilà. Et lui, évidemment, il était super partant, d'autant que ça a été une de ses premières expériences en tant que producteur. Si je dis pas de bêtises, c'est là où il a véritablement pu s'investir dans le projet. Et ensuite, c'est justement, il s'est accroché, comme tu l'as dit, au personnage de Riddick. Et quand on a essayé de lui proposer que ce soit la suite de Fast and Furious ou la suite de Triple X, lui a dit non, je suis désolé, je préfère me prendre la tête avec Universal et je préfère négocier les droits pour essayer de faire une suite de Pitch Black autour justement du personnage de Riddick. Et il y avait encore, à mon avis, un espoir à cette époque-là, aux alentours des années 2000, justement, aux alentours des chroniques de Riddick, quand il voulait porter ce personnage un peu comme, et c'est là où je vais faire une comparaison qui peut être très malheureuse, mais j'assume, cette idée de Vin Diesel qui commence avec son petit court-métrage de son côté, qu'il a lui-même écrit, réalisé, produit, qui aurait pu devenir un bête d'acteur de film d'action, qui a été repéré par Spielberg. Il y a vraiment une trajectoire presque à la Stallone avec Rocky, en fait, où il a gardé le personnage de Rocky pour lui. Il a été révélé là-dessus. Et en fait, pour moi, Vin Diesel, avec Riddick, il a essayé de faire ça, je pense, de vraiment garder le personnage pour lui, de s'accrocher, de se trouver sa figure à lui. Ce qui, malheureusement, au box-office n'a pas fonctionné. Dans le cœur des fans, nous, on n'oublie pas. Mais à mon avis, ouais, il y avait vraiment ce truc-là de, au début des années 2000, il aurait pu devenir éventuellement un très, très, très grand acteur via la figure de Riddick, si, à mon avis, les chroniques de Riddick ne s'étaient pas cassées la gueule, je pense. Et si, après, il ne s'était pas enfermé dans les... Fast and Furious 4, 5, 6, 7, 9.
Mais c'est 1000. Ça que je trouve assez joli aussi, c'est qu'il ne fait pas Riddick tout seul. Il collabore avec David Tui depuis le début. Et pour le coup, il y a plein de gens qui critiquent Vin Diesel et des gens qui le défendent. Et David Tui fait partie de ceux qui le défendent en disant on collabore vraiment, on passe des journées entières chez moi à boire du thé ou de la bière et à parler pour écrire un scénario. Sans lui, ces films-là n'auraient pas pu exister. Sans lui, je ne serais pas là. Donc tu sens que c'est pas. Enfin, moi, j'aime bien David Tui, même Escapade Mortelle ou Fatale, je ne sais plus, là, avec Mila Jovovich. Hein. J'ai de la pour ce mec qui fait un peu des séries B, il y a une sorte de savoir-faire et tout que tu retrouves notamment dans les Riddick. Et donc je pense pas trop, enfin j'ai pas envie de croire qu'il le défend juste parce que sa carrière ne tient qu'à Vin Diesel. C'est, tu sens quand il en parle que c'est sincère, quoi. Il dit ouais, on n'est pas toujours d'accord, mais on collabore. Et c'est un mec avec qui il collabore depuis je sais pas combien d'années maintenant. Donc c'est ça que je trouve bien, tu sais, il s'est accroché. En fait, j'ai l'impression que Vin Diesel aussi, il défend, c'est le côté famille, tu vois. Dans le dernier Fast and Furious, et Dieu sait que c'est une idée de merde. Il a insisté pour que Jordana Brewster revienne, incarner Mia, c'est comme ça qu'elle s'appelle, ce personnage fantastique, alors qu'elle n'était pas dans le scénario au début. Alors certes, c'est pas bon pour le film parce que ça n'a aucun sens qu'elle soit là, mais du coup, cette meuf qui est là, qui a une carrière un peu pourrave, même si elle a joué dans The Faculty à l'époque, et qui, clairement, elle doit pas cracher sur continuer à bosser, eh ben, en fait, elle fait partie du clan. Du coup, il veut qu'elle soit là parce que pourquoi pas en profiter. En fait, c'est ça, tu te dis, tu peux voir le côté, c'est ridicule, il pense de la mauvaise manière et en même temps, la manière de laquelle il pense, il y a un côté humain un peu con-con, mais du coup, tu fais partie de la famille et du coup, David Tui, c'est sa famille, Jordana Brewster, c'est sa famille, donc ils sont encore là.
Bah, sinon, puisqu'on parle de famille et Vin Diesel et grand rôle, je pense qu'on peut attaquer sur le dur en parlant de Jugez-moi coupable, qui est clairement l'histoire d'un gars qui veut protéger sa famille.
Oui, voilà. Qui... La famille de la mafia, mais c'est
la famille de la mafia, mais la famille avec un grand cœur. Et on essaie de t'expliquer que Oui, voilà, que c'est un gars qui est pris justement à bah, bousiller sa vie pour protéger celle qu'il considère comme les siens. Et cette idée de famille qu'on construit, alors oui, on te parle de cousins, mais c'est quand même plus des amis d'enfance. Et puis même, ce rôle est assez dingue. Et vu que t'as commencé tout seul, Arnold, en parlant du parallèle avec Stallone, pour moi, genre, Jugez-moi coupable... Et t'as Vin Diesel, ce que Copland est à Stallone, quoi.
Ils ont tous les deux la voix un peu cassée comme ça. Tu non, comprends pas quand ils parlent.
L'idée de justement de jouer un petit peu plus à contre-emploi, c'est-à-dire sans jouer sur le physique, d'accepter de prendre du poids, d'accepter en fait de jouer un héros qui est un peu has-been.
D'être un acteur, quoi.
Voilà, d'être un acteur et de se détacher de son ego. Et dans un rôle très touchant, qui est souvent considéré comme son meilleur, son rôle le plus touchant. Oui, moi j'avais vraiment l'impression de voir du Stallone là-dedans. Et si on pousse dans cette comparaison, et encore une fois, c'est toi qui as commencé Arnold, donc
j'assume.
Genre, il faut forcer Déborah à parler de Stallone.
Quand tu vois que justement après Triple X, donc après le gros blockbuster qui a fait lui vraiment une grosse vedette, bon bah il se casse un peu plus les dents avec les chroniques de Riddick, mais quand même un projet assez personnel, et ensuite il essaie vraiment de jouer de son image, il va jouer dans Babysitter, la comédie de Disney, où bon clairement c'est à l'époque où en fait toutes les grosses stars d'action font leur comédie Disney style The Rock avec la fée des dents ou ce genre de truc, qui est un film...
Pas bon.
Franchement, t'es voilà, gentil. Hein. Ouais, j'étais sur bon, Lamentable. Vraiment Lamentable, où tu vois qu'il n'a strictement aucun tempo comique, mais parce que tout simplement le film ne sait pas tirer parti de son sous-jeu, de sa voix, de ses expressions, alors que Jugez-moi coupable, lui, le fait super bien et arrive véritablement à rendre son personnage drôle par l'écriture, par ses mimiques, par sa grosse bedaine et ses cheveux un peu décolorés.
Ouais. Ce qui est surprenant, parce que en fait, tu t'attends pas à ça. Déjà, il va chez Sidney Lumet, qui est quand même un directeur d'acteurs de fou, qui en plus aime les huis clos, le film qui repose sur le dialogue, sur les acteurs. Donc tu te dis là, il a tout à jouer. Enfin, ça repose sur lui. En sachant qu'à la base, Sidney Lumet voulait visiblement Joe Pesci, mais qui était un peu déjà trop vieux pour le rôle. Mm-hmm. Et c'est en vrai le vrai. Donc, du coup, Jugez-moi coupable pour reprendre. C'est donc un mec qui, un mafieux qui, au moment où il y a un procès de 2 ans. Contre toute une famille mafieuse, ils sont plus d'une vingtaine à être accusés, il y a 70 chefs d'accusation, enfin le truc est énorme, et en fait Vin Diesel, lui, il est déjà en taule à ce moment-là, et il dit en fait, comme son avocat l'a envoyé en taule et qu'il était incompétent, il a dit je vais me défendre moi-même, et je ne ferai jamais le rat, quoi, je vais jamais balancer qui que ce soit, et je vais essayer de me défendre du mieux possible. Et la question c'est, est-ce qu'il va y arriver ou pas? Donc c'est basé sur un vrai fait divers. Et du coup, le film a été réalisé pendant que le vrai Jackie DiNorcio était en prison. Et c'est le vrai Jackie DiNorcio qui a dit, après avoir vu Fast and Furious, qui a dit à Lumet, franchement, je pense que Vin Diesel, il pourrait bien me jouer. Déjà, physiquement, ça collait visiblement a priori. Et si Vin Diesel acceptait effectivement la bedaine et le maquillage et les extensions de cheveux, ça marchait a priori. Mais ce qui est fou, c'est que le film est du coup... un film assez mineur dans la filmo de Lumet, parce que c'est quand même un peu filmé platement. C'est vraiment un film de procès, de 2 heures, il ne se passe pas grand-chose de plus. Mais la plupart du film est basé sur ce qu'a réellement dit, sur ce qu'a vraiment été dit pendant le procès. Mm-hmm. Et ce qui est fou, c'est que Jackie DiNorcio, en fait, a réussi plus ou moins à se mettre le jury dans la poche. Parce que du coup, il se défendait tout seul.
Ah, c'est même pas plus ou moins, il a réussi à se mettre le jury dans la poche et du coup, à défendre tous ses potes malgré eux, malgré le fait que ce soit des mafieux et que ce soit des criminels, comme essaie de le démontrer. Le procureur corps et âme, mais il n'y arrive pas malheureusement, parce que ce type est beaucoup trop sympathique aux yeux du jury.
Et charismatique,
et il y arrive, complètement.
Ouais, et t'as autant des moments où il y a un vrai tempo comique, parce que lui, du coup, joue sur le fait qu'il n'est pas avocat, donc il connaît pas trop les manières, et c'est comme ça aussi qu'il se met un peu le jury dans la poche.
C'est d'ailleurs comme ça qu'il se présente au jury, il dit je ne suis pas un gangster, je suis un farceur.
Oui, voilà, c'est ça. Et il se présente comme ça, donc il y a un vrai tempo comique qu'il arrive à donner à certains moments, et d'autres qui sont vraiment dramatiques. Il y a son cousin, donc qui au début du film lui a tiré dessus, et c'est en partie pour ça que l'affaire est aussi lancée. Et ce cousin-là, tu comprends que c'est quelqu'un qui était sous toutes les drogues possibles et imaginables, et qu'en fait Vin Diesel a essayé que le personnage de Jackie DiNorcio l'a protégé un maximum et n'a pas voulu le dénoncer quand le mec lui a carrément tiré dessus. Et t'as tout un passage dans le procès qui est le point de bascule du film, parce qu'à ce moment-là, tu sais qu'ils ont tous fait des trucs illégaux, mais en même temps, ce qui est donné comme argument au procès est franchement fallacieux de la part des gens. Et on accuse souvent Jackie DiNorcio d'avoir lui pris même de l'argent des caisses des mafieux pour l'avoir redistribué un peu n'importe comment, d'avoir pris de la drogue, d'avoir fait des trucs au sein même du système qui n'étaient pas géniaux, mais t'as ce cousin-là qui l'accuse de trucs qu'il n'a pas vraiment fait, et lui, lui retourne l'argument en disant « Mais en fait, moi, j'ai juste essayé de te protéger et c'est dégueulasse de me renvoyer ça à la gueule. » Et t'as un vrai moment d'émotion qui est assez étonnant et que lui, en tant qu'acteur, tient super bien. Et globalement, à ce moment-là, le film repose vraiment sur lui et sur son interprétation qui donne le « là » pour tout le reste. Et il est là dans toutes les scènes. Et le film tient étonnamment super bien, même si ça reste un petit film de lumette.
Il a gagné un prix pour ce film ou pas ?
Non. Et en plus, le film a été un flop à sa sortie. Ouais. Donc,
parce que je me disais que c'était peut-être à partir de ce moment-là que le boulard de Babouliné est né. Parce que quand tu regardes un peu la filmographie, donc voilà, t'as un peu cette consécration, il tourne pour Sidney Lumet, premier rôle, il est incroyable et tout. Ensuite, directement après, on enchaîne avec son caméo dans Tokyo Drift. Donc la récupération de franchise qui deviendra
ouais,
la
mais non,
sienne.
Là, c'est la lecture méchante, Déborah. Il a fait ce caméo pour récupérer les droits de Riddick pour faire Riddick après. Donc en fait, c'est vraiment un moment.
C'est mon histoire.
Il a
c'est
dit,
comme
oui,
ça que
mais
c'est
arrête de faire du storytelling comme Vin Diesel. Là,
c'est exactement ce que dit Jugez-moi coupable. Hein, c'est, attention aux versions ouais, des
bullshiteuses, Déborah. Non, mais du coup, ça, c'est une jolie chose qu'il a fait. Il a vraiment fait ce caméo de merde pour Riddick. Donc ne réécris pas l'histoire, Déborah.
D'accord. Bah, après, il y a Babylon AD. Donc oui, ok, d'accord. Pour Babylon AD, il y a encore ce truc de un réalisateur qui veut Vin Diesel dans son film, parce que Kassovitz a clairement dit qu'il voulait Vin Diesel dans ce rôle parce qu'il incarnait un peu d'après lui le bourrin. Et justement après bon le film est ce qu'il est, ça a été un immense échec, et ensuite il y a eu le documentaire Fucking Kassovitz où on apprend que Vin Diesel avait été absolument insupportable sur le tournage, qu'il voulait vraiment s'approprier le scénario, qu'il pensait mieux que tout le monde, qu'il voulait pas faire les scènes d'action, enfin vraiment ingérable. Et ensuite bah on a la bascule Fast and Furious qui pour moi là c'est vraiment
attends,
le
parce que sur le Babylon AD c'est marrant, il ouais. y a des sources vraiment contradictoires, il y a des gens qui racontent que vraiment Vin Diesel, il y a un mec des cascades qui raconte que Vin Diesel est venu plusieurs semaines avant le début de la prépa, alors qu'il n'avait pas besoin, dans son contrat, c'était pas stipulé, pour répéter les trucs, et du coup, il était quand même assez à fond, assez enthousiaste, et il est arrivé plus tard, 3 heures en retard à une répétition, Kassovitz a pété un câble, lui a jeté un truc à la gueule, lui a dit d'aller se faire foutre. Suite à ça, Vin Diesel, du coup, aurait dit « Ok, bah, va te faire enculer », pour reprendre ses mots, dans son coin. Et en fait, il lui a dit, il a fait passer via ses avocats, qu'il allait scrupuleusement respecter son contrat. Et à partir de là, ça a commencé vraiment une guerre de tranchées, genre « Ok, tu me respectes pas, bah, va te faire foutre ». Donc évidemment, ça a été le début de la fin. Et après, oui, le budget a explosé, le tournage a explosé, le truc a été récupéré par les compagnies d'assurance. Enfin, vraiment, plus personne ne défend ce film-là. Mais des deux côtés, ils se balancent tout dans la gueule, quoi. Vin Diesel n'a jamais dit ouvertement que Kassovitz était un connard, mais Kassovitz a clairement dit ouvertement que Vin Diesel était un connard. Et des gens défendent les deux en disant, en gros, tout le monde était taré sur ce film. Tout le monde a pété un câble de A à Z, quoi. Donc je ne sais pas qui est fautif, c'est peut-être tout le monde.
Il y a plein de choses en fait qui déconnaient sur le film, qui fait que ben ils avaient pris du retard, que tout n'était pas prêt quand Vin Diesel arrivait sur le plateau. Donc du coup lui, ça devait passablement l'énerver après avoir tourné, je ne sais pas combien de films, mais avoir été plutôt carré. Et à mon avis, Vin Diesel justement, après s'être pris la tête avec Mathieu Kassovitz, a dû être tout à fait insupportable en refusant de faire les scènes d'action, en disant non, ça c'est pas dans mon contrat donc je le ferai pas. Donc en fait, je pense que les torts sont partagés et que c'est ce que fucking Kassovitz montre, à savoir que le film a été un désastre parce que personne ne savait exactement quel film il voulait faire. Et c'est d'ailleurs comme ça que le conclut Mathieu Kassovitz. Il dit on voulait tous faire un super film, mais le problème c'est qu'on voulait tous faire un film différent, quoi.
Ils ont travaillé les uns contre les autres, ouais, c'est ouais, un truc typique, c'est pour ça.
Pour rappeler, du coup, mais enfin, Fucking Kassovitz, c'est un documentaire, enfin, c'est le making-of non officiel de Babylon AD, qu'on peut facilement retrouver sur YouTube maintenant, mais qui est en fait le truc plus passionnant que le film encore.
Bien sûr.
Enfin, t'as un making-of officiel d'ailleurs de Babylon AD, je crois, et bon, tu peux regarder le film pour déjà constater un peu la catastrophe, mais quand tu regardes le Fucking Kassovitz, c'est assez fascinant parce qu'il y a rien qui va. Enfin, tu te dis. Quand tu travailles dans le cinéma et potentiellement que tu veux faire des films, c'est un cauchemar à regarder. Enfin, tu te dis, mais jamais je veux qu'un truc pareil, enfin, que le cinquième de ça m'arrive. Parce que, enfin, moi, j'aurais été Kassovitz, mais tu te dis plus jamais je fais du cinéma après ça, quoi. Parce que c'est, effectivement, les compagnies d'assurance qui récupèrent vers la fin du tournage des trucs. Il n'y a rien qui marche. Les casques de moto pour faire un truc futuriste, ils ont un truc de merde à la place. Ils ont l'une des plus grosses explosions du film se déclenche en avance, alors que les caméras ne tournent pas. Enfin, c'est un truc, et ça demande un temps monstrueux à repréparer derrière. Enfin, donc là, pour le coup, des trucs qui sont pas du tout dus à Vin Diesel ou à qui
non,
se sont,
bien sûr.
Qui
non,
sont
mais
dus
plutôt à la
quoi,
coordination
mais...
globale.
Ouais, voilà,
c'est après, ça a l'air d'être un chaos qui, malheureusement, doit pas être extraordinaire à Hollywood, parce que le nombre de films, c'est juste que là, on a des témoignages. Les gens ont ouvert leur gueule. Vin Diesel n'a jamais, il me semble, taclé ouvertement Kassovitz, alors que Kassovitz n'a jamais manqué de dire que c'était, je cite, un PD, mais je suis pas homophobe, c'est ce qu'il a dit hein, quand même, que c'était un lâche, que c'était un gros con. que voilà, c'était une sous-merde en gros. Mm-hmm. Et c'est juste que maintenant on a le son de cloche des Européens avec le making of non officiel, mm-hmm, et Mathieu Kassovitz. Mais je suis sûr que Hollywood est plein de films qui sont des catastrophes comme
c'est
ça.
Certain.
Parce que dans mon souvenir, le résultat, il est complètement insipide.
Oui,
tu vois,
voilà, c'est moyen.
Mais insipide comme les trois quarts des merdes qu'on critique et qu'on met dans les flops chaque année. Tu vois, donc en fait, c'est même pas exceptionnellement nul. C'est juste banalement
du gâchis,
nul, quoi.
Ouais. C'est même comme je suis assez d'accord avec Déborah, c'est même du gâchis parce qu'il y a plein de bonnes idées. Et même juste quand tu prends le projet de base, on te dit une adaptation d'un roman d'OSF complète entre le cyberpunk et en même temps le géopolitique. Enfin, il y a tout un tas de thèmes qui sont brassés dans ce roman. Il y a Vin Diesel dans le premier rôle, il y a Mathieu Kassovitz qui est en pleine explosion. Enfin, tout a l'air vraiment super. Il y a un énorme budget parce que c'est production hollywoodienne derrière, etc. Et au final, le truc véritablement se casse la gueule au fur et à mesure, jour après jour, semaine après semaine. Et tout le monde constate le truc. Tout le monde regarde effectivement le projet s'écrouler tout en continuant de participer au truc. Et ça donne ce résultat qui aurait pu être un vrai bon film, quoi, si effectivement tout le monde avait éventuellement porté une seule et même vision, quoi.
Mais je pense qu'entre, vous avez oublié, quand même, on reparle des chroniques de Reddick, parce qu'en fait, entre 2003 et 2006, oui, des rigoles pas des bras. En fait, quand tu regardes entre 2003 et 2006, 2004, il y a les chroniques de Reddick, donc qui est un film hallucinant, je veux dire, 100 millions de budget. David Touille avait refusé de faire une suite à la Pitch Black pour faire un truc qui était autre que Pitch Black, donc il voulait faire une espèce d'énorme space opéra, Dark Star Wars.
Ils ont mis 56 ans à le faire, je crois. Enfin, ça a pris un temps démentiel en plus.
Ça a pris du temps, et surtout qu'il a fallu... Enfin, vraiment, il dit, ce film, il existe que parce que Vin Diesel a mis son pouvoir dans la balance, et l'équation science-fiction plus Vin Diesel, surtout, a permis d'avoir un budget énorme pour faire un film qui, en fait, ne rentrait pas dans les cases. Sinon, on n'aurait jamais pu le faire. Donc, Vin Diesel a mis ses couilles dans le plateau, pour parler dans le langage de Fast and Furious, et il avait refusé donc des cachets énormes pour Fast and Furious 2 et XXX2. Mm-hmm. Vraiment, à un moment, il a fait des choix de carrière. David Tui dit vraiment, ces films existent parce qu'à un moment, Vin Diesel a fait des choix de carrière. Mm-hmm. On peut dire tout ce qu'on veut de lui, il a fait des choix, il a dit non à d'autres films. Après, il fait donc, il a fait Un homme à part, qui est un peu un film qui c'était censé être le truc un peu d'action, mais un peu sérieux, où il joue un homme qui veut venger la mort de sa femme.
Enfin,
c'était avant Liam Neeson, mais c'est un peu pareil, quoi.
C'est vraiment pas bien.
Il fait son Babysitter, qui est donc son truc un peu un flic à la maternelle, hein.
C'est vraiment pas bien non plus. Oui.
Voilà. Mais du coup, il essaie de un peu se renouveler, dire que je suis un comédien, un comique. Il fait donc Juger ma coupable, et après Babylon 80, c'est avec un Français qui a fait La Haine. Donc, tu sais, quand tu regardes en théorie ce qu'il fait à ce moment-là, c'est plutôt beau. Tu dis, le mec, voilà, il essaie de se renouveler, il essaie de s'enrichir de plein de gens différents hors Hollywood, il soutient David Touille, il fait un truc comique, il fait un truc avec Kassovitz. Sur le papier, tu sens qu'à ce moment-là, il avait une envie, mais sa carrière a pris un virage différent parce que tout ça a été une catastrophe, que ce soit à cause de lui ou pas à cause de lui. C'est que donc Babylon 80, on va pas redistribuer les cartes, on sait pas qui est coupable, on va dire que tout le monde. Babysitter, on va dire qu'on s'en fout. Et les chroniques de Reddick, ça a pas marché, il a coûté plus de 100 millions, au box-office, c'est environ 100-110 millions. Donc clairement, ça a été un crash, ce truc. La saga Reddick a complètement été repensée après. C'est revenu avec Reddick 3, donc Reddick, à quelque chose de plus modeste comme le premier. Mais c'est ça qui est terrible, c'est que à ce moment-là, tu sens vraiment qu'il se dit « Ok, j'ai du pouvoir, j'ai fait XXX,
je peux faire
on vend un
chose,
film sur mon nom, je suis payé 20 millions pour faire un truc. » Qu'est-ce que je fais de ce pouvoir ?
Et d'ailleurs, c'est assez dingue parce que en regardant une interview qu'il avait faite à l'époque de Triple X, donc juste après la sortie de Triple X, lorsque la journaliste lui dit « Ça fait plaisir de vous voir ici, maintenant que on s'était rencontrés il y a de ça environ 4 ou 5 ans, donc en 97-98, quand il jouait justement pour Steven Spielberg, quand il était encore personne. » Et elle lui dit « Aujourd'hui, maintenant, vous êtes sollicité par tout un tas de journalistes, par les interviews, est-ce que ça fait du bien justement d'être devant les projecteurs, quoi ?» Et il dit « Oui, maintenant, c'est vrai que c'est une forme d'accomplissement aujourd'hui. » Et il était seulement à l'époque de Triple X, mais tu te rends compte que le gars, d'être sur le devant de l'affiche, à la fois être producteur, acteur, et impliqué dans tout un tas de projets, c'est quelque chose qu'il cherchait. Et cette implication-là, qu'il a mise dans les chroniques de Reddick, je suis vraiment certain que Reddick, le personnage de Richard Reddick et son histoire avec cette mythologie et tout, c'est la sienne, quoi. Il l'a vraiment écrite pour lui. Et rien que le fait que les Élémentales, dans le film, c'est un truc qu'il a sorti de Donjons et Dragons, parce que c'est un énorme fan de Donjons et Dragons.
Dégoûté de pas dans le film alors que Michel Rodriguez est dedans.
Je pense ouais, à mon avis, je pense que
il aurait pu faire un bon film cette année, c'est dommage.
Ouais, Michel Rodriguez doit pas beaucoup lui en parler à mon avis sur le tournage. Il doit bien avoir le seum. Mais en tout cas, avec les chroniques de Reddick, il avait à mon avis vraiment très envie de créer un univers. D'ailleurs, même lui, quand il en parle, il dit que c'était déjà une idée d'univers étendu, mais en tout cas de grandes sagas. Et gros crash au box-office. Et à mon avis, Je pense que l'échec des chroniques de Riddick, puis le fait ensuite que dans Tokyo Drift, la seule chose que tout le monde retient de Tokyo Drift, c'est ces 5 secondes où Vin Diesel apparaît. Et d'ailleurs, pendant les projections, le public était extatique, mais véritablement, c'était l'équivalent de... des scènes post-génériques du MCU aujourd'hui.
Oui, parce que nous, on n'avait pas ça encore à ce moment-là. On n'était pas habitués à abreuver de ce mode de narration, de tisser le prochain film, des univers étendus.
Exactement. Il n'y avait pas du tout encore ces idées-là. Et le fait de faire apparaître Vin Diesel juste 10 petites secondes pour cette dernière scène de Tokyo Drift, ça a créé un engouement exceptionnel. Et je pense que lui, après l'échec des chroniques de Riddick, s'est dit « Bon, bah d'accord, on m'a plus ou moins donné les clés, littéralement, de la franchise Fast and Furious. » Ben, je vais en faire ce que je veux.
Il les a prises parce qu'il est toujours bien dans le 4. Si, avec ma boîte de prod, on est derrière. Et c'est que tu dis, ok, il se dit, je reviens dans ce truc-là auquel j'avais refusé un moment. D'ailleurs, il dit qu'il a un peu regretté d'avoir dit non si rapidement à Fast and Furious 2. Pas à cause du chèque, mais parce qu'il s'est dit, en fait, le scénario c'est nul, mais j'ai réagi très rapidement comme XXX2, genre le scénario c'est de la merde. Et peut-être qu'avec le recul, il se dit qu'il aurait dû patienter et faire réécrire comme il fait depuis. Mais c'est vrai qu'à partir de 2009, donc Fast and Furious 4, qui s'appelle en anglais Fast and Furious, alors que le premier c'était The Fast and the Furious, donc tu sens le soft reboot. Et j'adore le slogan sur l'affiche, c'est genre nouveau modèle, pièce d'origine, c'est genre un des meilleurs taglines de toute la saga, j'adore. Et vraiment, tu reboot, tu redémarres, sauf que cette fois, il se dit, ok, il y a un potentiel énorme là-dedans, clairement, je dois m'accrocher à cette bagnole parce que les gens veulent, donc je prends un peu contrôle de la machine, je deviens coprod avec ma boîte de prod avec Universal, et depuis, bah, du coup, c'est un boulevard depuis, et c'est un succès hallucinant.
Et comme tu l'as dit, et là, depuis Fast and Furious 4, il ne fait que rouler à pleine vitesse vers le succès, et ensuite vers le gros succès.
Ce qui, en vrai, est assez incompréhensible quand on y réfléchit deux secondes, parce que le 4... c'est un des pires, quoi. Enfin, c'est chiant comme la mort. Ça se prend terriblement au sérieux. C'est qu'à partir du 5, tu vois, qu'ils ont commencé en plus à se dire, vas-y, on prend des coffres forts, ça roule sur le sol et tout, on s'en bat les couilles. Il y a The Rock qui fait son Steven Seagal, c'est trop bien. Mais avant ça, enfin, le 4, c'est quand même difficile. Hein.
Ah ouais, oui, c'est sûr.
Encore sur un truc.
Et pourtant, ça a cartonné à partir de là. Du coup, les chiffres ont fait que grimper, c'est ça qui est dingue.
Mais voilà, à savoir que tout le monde était persuadé, y compris chez Universal, que la saga allait finir en
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
TV et qu'il n'y aurait quasiment plus jamais de suite, en fait, après Tokyo Drift. Et le fait de ramener Vin Diesel... et Paul Walker, évidemment, enfin le reste du casting original, mais en particulier Vin Diesel, je suis sûr que ça a déclenché tout le phénomène autour de Fast and Furious 4, puis le 5, puis le 6, puis le 7, et c'est très bête, mais je me souviens quand j'avais été le voir au cinéma, Fast and Furious 4, lorsque, dans la scène d'ouverture, tu as ce moment où il découpe la façade du train et t'as Vin Diesel qui apparaît une fois que la façade, le côté du train s'envole et qu'il est là, comme ça, en premier plan. Je me souviens, la salle avait explosé parce que tellement heureux de voir...
Le centaure est de retour.
Exactement ça.
Et à partir de là, en fait, 2009, c'est Fast and Furious 4, 2011, le 5e, 2013, le 6e, 2015, le 7e, 2017, le 8e, 2021, le 9e, 2023, le 10e. En fait, sa carrière, maintenant, c'est que ça. Il n'y a quasiment rien à retenir. Alors si, on peut retenir qu'il a été casté chez Marvel pour jouer encore moins de paroles que dans Le Géant de Fer, il me semble. Parce que...
Et puis, Le Géant de Fer, véritablement, il y avait un choix. Pourquoi on l'avait choisi lui? Parce que la voix super grave, parce que ce ton monocorde qui pouvait être à la fois pathétique. Je pourrais vraiment parler de ce film pendant très longtemps, donc arrêtez-moi, alors que dans Groot, c'était juste pour mettre un gros nom au générique.
Non, je pense qu'ils se sont dit, il avait une voix caverneuse assez exceptionnelle pour dire quelques mots.
Il dit trois mots.
Oui, mais
sur
du coup, il faut insister sur les trois mots des bras.
Dans la plupart des langues, parce que du coup, il fait toutes les langues de Groot, plus ou moins. Si du coup en français on s'est retrouvé avec ce jeu s'appelle Groot, c'est pas juste parce que Groot est con, c'est parce que ils sont cons et qu'ils ont pas vérifié que c'était je m'appelle Groot, c'est qu'ils ont vu que c'était s'appeler le verbe, ils ont mis s'appelle.
Tu crois pas qu'ils ont voulu faire une faute pour le côté un peu enfantin?
Non, il paraît que c'est une une erreur, c'est vraiment une erreur, et du coup qu'ils ont gardé
ont
et c'est devenu un truc rigolo
après en disant non c'était fait exprès.
Il paraît que c'était vraiment une erreur et que c'est pour ça d'ailleurs que Vin Diesel il est trop content en mode c'est moi qui fais toutes les langues MDR, alors tu fais t'as fait du phonétique et t'as pas compris.
Et dans cette période, donc entre 2013-2023, il fait 6 Marvel, les 3 gardiens et d'autres apparitions, même peut-être un peu plus, je crois qu'il y a eu on va dire il a fait 5, 6, 7 Marvel qui sont très marquants. En 2015, il y a quand même le dernier chasseur de sorcières. Qui a vu ça? Moi, j'ai jamais
vu.
C'est bien ou pas?
Non.
Non, mais c'est pas bien ou vraiment, vraiment pas bien?
Il y a des dreadlocks dedans.
Non, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas bien du tout. C'est-à-dire que je préfère encore revoir Babysitter, là, à choisir.
Mais là, du coup, vu que tu disais juste avant qu'il est fan énorme de Donjons et Dragons, il y a grave une vibe Donjons et Dragons Le Dernier Chasseur de Sorcières.
Oui, et d'ailleurs, c'est hilarant, parce que quand tu vas lire la fiche Wikipédia anglaise du Dernier Chasseur de Sorcières, la première phrase à propos de la production qu'on te sort, c'est le scénariste Chris quelque chose, je suis désolé, j'ai oublié le nom. Mais,
désolé, Chris.
Voilà. Mais le scénariste, en gros, a été très, très influencé par ses conversations avec Vin Diesel autour de Donjons et Dragons, et visiblement en fait le dernier chasseur de sorcières c'est le Donjons et Dragons de Vin Diesel, et c'est plus ou moins ça.
Ça rend ce film encore plus triste.
Et ça rend ce film encore plus triste parce que ça ressemble à rien, c'est ni un bon film, enfin c'est ni un film d'épouvante, ni un film d'action, ni un film de fantasy. C'est vraiment juste très pénible et vraiment pas beau.
C'est peut-être pour ça que Michael Rodriguez l'a pas appelé sur le plateau de Donjons et Dragons. Il voulait pas qu'il pourrisse le truc.
Et cela dit, ce film a suffisamment marchoté pour que depuis 2020, il parle d'une suite. Hein. Il est censé. De toute façon, à ce stade-là, Vin Diesel est vraiment en train de dire qu'il va faire des suites et régulièrement, il parle des suites. Et XXX3, donc qu'il a fait en 2017, j'ai pas vu non plus.
Ça, pour le coup, c'est horrible.
Alors, ça c'est tellement. Mais c'est l'opportunisme, mais qui est.
Ouais.
En fait, c'est surtout. Triple X3, c'est un truc que je trouve assez amusant quand même parce que c'est tellement le vieux beau. Qui est persuadé qu'il est encore au top de sa forme niveau héros d'action. Donc Triple X3, pour l'anecdote, commence quand même sur Xander Cage qui fait du ski dans la jungle. Voilà.
Mais sur quoi?
Sur des skis. Mais en fait, il part
y a quoi
de...
dessous?
C'est de la terre.
Et des branches d'arbres. Voilà,
je suis pas un grand connaisseur de ski, mais...
Pourquoi?
Alors, il part d'une tour parabolique, tu vois, il s'est accroché au truc, il saute et il se met sur les skis. Et après, les skis deviennent un skate, plus ou moins. Enfin, où il a un skate qui est... Voilà. Donc, il finit sur la route. Il s'accroche à des bus et tout ça. Et tu vois, c'est genre... il a des tatouages. Il dit « Yeah, man !» Tu vois, avec les mecs à côté qui doivent être brésiliens, je suppose, ou un truc comme ça.
Ouais. Brésiliens, je pense, parce qu'il y a Neymar.
Pays latino,
ouais, non, mais il y a Neymar dans le film.
Il y a Neymar dans le film.
Donc, je crois que c'est brésilien.
Ça. Ah oui, non, mais...
Raison plus de pas le voir.
Et l'opportunisme le plus total, parce que c'était surtout pensé pour attirer les Chinois. Donc, il y a Donnie Yen qui joue à la base le méchant, mais qui en fait n'est pas méchant. Et qui devient pote avec Vin Diesel pendant le
film. Personne n'est méchant.
Non, mais c'est exactement ça. Mais de toute façon, c'est totalement ça. C'est toute l'équipe. Mais en fait, c'est une redite de Fast and Furious. C'est une équipe d'espions. Et ils sont tous d'horizons différents. Donc, t'as Ruby Rose qui joue évidemment la snipeuse lesbienne. Parce que voilà. T'as le mec qui est spécialiste. Lui, alors c'est incroyable. Il y en a un. Il est spécialiste de faire la teuf.
Ouais.
Donc, en fait, je sais que c'est vrai. Et du coup,
c'est un métier, sa merde.
Mais du coup, il lance des soirées techno. Comme ça, ça fait diversion pendant que les autres font des missions. Je te jure que c'est vrai.
Ouais, c'est un vrai truc de scénario. Ouais.
Bon, j'aime bien l'idée, hein, franchement.
Donc, tu te retrouves avec des trucs comme ça et avec aussi cette course-poursuite magnifique entre Vin Diesel et Donnie Yen où ils partent d'une motocross qui devient jet ski. Ouais. Et tu as ce plan qui est absolument fantastique et qui à lui seul vaut le visionnage du film de Vin Diesel qui, du coup, se prend une vague et ressort de l'eau, mais au ralenti. Et donc, imagine le crâne chaud de Vin Diesel qui sort de l'eau au ralenti, tu sais, avec vraiment la couche d'eau, mais qui distord son visage. Comme tu dirais vraiment, tu sais, les blobs au fond de l'océan, ça fait exactement cette image-là et c'est absolument génial. Donc, Triple X3, c'est très très nul, mais c'est aussi très rigolo.
Non, mais cette idée de je me rends pas compte de mes limites et j'ai toujours l'impression d'être au top et tout, c'est aussi ce qui, d'après moi, a participé à l'échec de Bloodshot. Genre sa tentative de percer cette fois au premier plan, je suis un super héros et tout ça, en plus je suis un peu ambigu moralement, tout ça, alors que bon bah au final le film est ce qu'il est, que niveau action bah il tient absolument pas sa promesse, et que c'est là aussi que tu te rends compte que Vin Diesel n'est pas et ne sera jamais un véritable acteur d'action.
J'ai plutôt de la tristesse quand je vois tout ça, en particulier quand je vois Triple X3, que je vois Vin Diesel qui essaie de ranimer vraiment le cadavre de Xander Cage avec sans aucun manque de respect, mais avec au moins 20 ou 30 kilos en trop par rapport à ce que le rôle lui demande. Ou même chose avec Bloodshot, où voilà, il croit sincèrement qu'il va lancer un univers de super-héros à travers ce personnage de Bloodshot. Enfin, ça fonctionne absolument pas, c'est vraiment très très mauvais, et j'ai vraiment de la pitié pour lui maintenant, et en fait je me dis que peut-être que sa seule façon d'exister aujourd'hui, c'est effectivement de rester derrière une bagnole, de passer des vitesses et de continuer de faire des blagues sur la famille avec les coronas, et il a plus trop le choix, un peu comme avec, on en revient avec cette comparaison, mais un peu comme avec Stallone aujourd'hui, où le type se raccroche désespérément pas à n'importe quel rôle, mais en tout cas à des rôles qui pourrait à peu près lui convenir.
Il va y avoir Cliffhanger 2, on peut dire.
Mais
que
voilà, non, c'est vrai. Non, c'est vrai,
excuse-moi. En termes de logique, on y croit. Ouais, j'ai hâte de voir Stallone.
C'est vrai, t'as raison. C'est vrai, t'as raison, effectivement. Donc, exactement comme Stallone, le type se raccroche désespérément à ses figures du passé qu'il n'arrive pas à lâcher parce que il ne peut pas faire autre chose aujourd'hui. Et dans le système actuel, il est dépassé, quoi.
Ouais, après, les studios veulent de lui. Hein. Les studios, il a dit, après Triple X3, ils veulent que je fasse le 4. Et le Chasseur de sorcières, il y a peut-être une suite. Bloodshot, le truc est sorti pendant la pandémie, donc sa carrière était complètement niquée. Il était dans les cinémas au bout de quelques semaines. Ils l'ont foutu en VOD, premium VOD. Donc, les chiffres ne permettent pas de voir si ça marchait réellement d'un point de vue commercial. Mais on n'est pas à l'abri que ce truc se réveille à un moment ou à un autre. Donc, en fait, ce mec existe parce que le système existe et que les gens aiment bien Vin Diesel. C'est une marque, c'est un des rares à avoir une gueule qui permet de vendre un film, de construire un truc, quoi, pour le meilleur ou pour le pire.
Mais c'est marrant que tu dis ça parce que cette vieillesse-là, moi, ça fait aussi que c'est ça qui me fait rire maintenant dans sa carrière. C'est que Vin Diesel ne repose en tant qu'acteur d'action que sur les VFX et qui sont souvent très mauvais autour de lui parce que Bloodshot, c'est en gros, il s'éclate en particules, donc c'est vraiment genre démo After Effects autour de son corps. Et dans Triple X, t'as un plan en particulier qui avait été pas mal commenté au moment de la sortie du film, qui est le plan de la fin du climax où en fait il est dans un avion et qui explose, et t'as littéralement du coup il court pour sortir de l'avion et sauter, et tu vois bien qu'en fait il y a que sa tête qui doit être plus ou moins réelle sur un corps numérique au sein d'un plan numérique avec un travelling numérique,
parce qu'il faut courir, donc c'est compliqué,
voilà, tu vois, et parce que la gravité le rattrape, quoi, au bout d'un moment. Mais le truc est tellement laid quand tu le regardes, tu fais mais c'est pas possible.
Et tu n'as pas vu Fast and Furious 10 encore.
Ouais, j'allais dire, c'est un peu mais après, c'est ça qui est terrible, c'est que au-delà de lui, c'est juste c'est pas du tout le seul à faire des films qui sont si dégueulasses, et en plus des trucs comme Bloodshot et XXX, je sais pas à quel point les budgets sont énormes. On est vraiment dans une... il est juste au sein d'une industrie où, de toute façon, à moins de bosser avec des grands réals ou dans des contextes vraiment où tu peux avoir de l'argent, des finitions et tout, tout est fait à la va-vite. Donc en fait, quand il se retrouve, ça m'étonne pas que Triple X soit aussi dégueulasse, que ce dernier Fast and Furious soit dégueulasse, alors qu'il y a 10 ans, on dirait que c'est un Spielberg à côté, quand tu regardes Fast 5 ou 6 à côté de la gueule que ça a aujourd'hui. Et en fait, c'est comme certains Marvel aussi, tu vois, les finitions sont dégueulasses, après tout, le public s'en fout, donc pourquoi se faire chier outre mesure, quoi.
Mais je pense que c'est ça, en fait, exactement comme tu le dis, il a plus envie de se faire chier, il a plus du tout d'ambition de faire des très grands films comme avaient pu l'être les Chroniques de Riddick à l'époque. Alors certes, effectivement, ça avait été un four au box-office, mais aujourd'hui, le public, la critique, enfin tout le monde l'a réévalué comme étant à défaut d'un grand film de science-fiction. Voilà, mais c'est un film de science-fiction en tout cas très ambitieux et vraiment solide et réussi.
Et qui ressemble à rien d'autre.
Sous beaucoup d'aspects.
Il y a plein de défauts dans le film, mais quand même c'est
assez
unique.
Démentiel, bien sûr, à côté des Dunes, des Star Wars. Effectivement, il avait une vraie place à part entière, cet univers-là. Et je pense que ça, il a complètement abandonné parce qu'il a trouvé la recette magique, entre guillemets, de tout simplement mettre sa tronche dans des bagnoles avec toute sa famille et toute sa bande de copains. Et c'est vraiment encore plus triste, mais depuis la mort de Paul Walker avec Fast and Furious 7, il a encore plus cet argument de « je continue pour lui parce que c'était mon frère ». Et ça, véritablement, raviver le fantôme de Paul Walker pour justifier le fait de continuer de faire des Fast and Furious 11, 12, 13, 15, 20, ça, c'est horrible, par contre.
Tu vois, autant j'ai pas forcément une affection énorme pour Vin Diesel et je m'en fous un peu de trash talk, autant là-dessus, j'avoue que je suis assez partagée. Et quand Geoffrey, tu parles de véritablement une candeur et une sincérité qui peut être maladroite, mais qui est authentique. Sur le cas de Paul Walker, on en parlait avec Antoine juste avant, c'est vrai que je sais jamais comment me positionner. Est-ce que véritablement c'est quelque chose de sincère et il pense véritablement à lui quand il fait les films et...
Je pense que ça l'a été, en plus du fait que ce soit le parrain de la fille de Paul Walker.
Il
l'a accompagné à son mariage, son père était déjà décédé, c'est lui qui a accompagné.
Tu le vois même dans les interviews, après la mort de Paul Walker, à chaque fois qu'il l'évoque, il est ému aux larmes, même parfois.
Toute l'équipe, c'est vrai que tu peux que imaginer qu'après avoir bossé sur autant de film ensemble, évidemment que ça a dû être horrible de perdre leurs potes et leurs collègues.
Et
comme
visiblement,
ça,
ils avaient une relation vraiment très, très fusionnelle entre, entre eux. Quoi. Donc, je suis sûr que oui, il a été affecté aujourd'hui, en 2023, quasiment 10 ans après sa mort. Dire qu'on fait Fast and Furious 13 parce que c'est ce que Paul Walker aurait voulu, j'en suis pas certain. En tout cas, il faudrait un peu plus d'arguments. Quoi.
Et même, c'est assez amusant parce que cette candeur-là, là, pour avoir vu des interviews qu'il donne sur Fast 10, où lui dit effectivement surtout que bah, Paul Walker lui aurait dit que son rêve, c'était que la franchise marchait bien et que s'ils arrivaient au 10e, c'était miraculeux. Et donc, que, là, en gros, l'argument, c'est de dire Fast 10, c'était le rêve de Paul parce que ça y est, on y est arrivé. Mmh. Bon, ouais, un peu fumeux comme truc, mais même au-delà de ça, par rapport à tout ce qu'on disait sur sa manière de se réapproprier des projets, d'y mettre depuis ses premiers cours, et, enfin son premier cours et son premier long métrage, son histoire à lui, en fait, quoi qu'on en pense, Fast and Furious, c'est quand même une franchise qui est non seulement l'une des plus cosmopolites d'Hollywood à l'heure actuelle, oui. C'est même l'une des seules, hein, bien avant que Marvel se dise, tiens, faisons Black Panther,
modèle, hein.
C'est devenu un modèle dans ce truc-là. Et ça, c'est clairement dû à lui. Et lui te dit en interview maintenant, j'aurais jamais pensé qu'on ait besoin d'une franchise comme celle-là pour rappeler à tout le monde la valeur de la famille et de ce truc-là. Tu vois, un truc qui aujourd'hui semble être tellement un gimmick, limite parodique quand tu penses à Fast and Furious. Mais je pense que lui, il croit sincèrement à ce truc-là, alors que c'est débile, tu vois. Mais tous les méchants sont là, tu m'as volé ma famille, machin bidule. Mais lui, il croit parce qu'il croit à cette simplicité un peu communautariste bêta de ces valeurs-là. Mais parce que c'est ce qu'il porte depuis ses premiers films. Et c'est un truc, mine de rien, qu'il a lui injecté vraiment dans la franchise Fast and Furious.
Et il a grandi là-dedans. Encore une fois, on en revient à ses tout débuts, à savoir que c'est un type qui a eu une culture blanche, noire, hispanique, italo-américaine, issu véritablement de tous les milieux. Enfin, pas tous les milieux, probablement pas le milieu bourgeois et le milieu très très aisé, mais en tout cas, qui a connu plus ou moins tout le monde et qui était pote avec tout le monde. Et c'est ce truc-là qu'il a injecté à 200% dans la saga Fast and Furious, ce qui est une des premières franchises où tu avais des personnages qui parlaient uniquement espagnol à l'écran, comme ça, pour le simple plaisir. Quoi.
Mais c'est pour ça que je trouve que parfois c'est un peu dur quand on dit oui, aujourd'hui il a abandonné toute ambition artistique et tout. C'est... En fait, je trouve qu'il ressemble un peu à Dwayne Johnson. C'est un cas assez... Du coup, c'est un parallèle assez intéressant, c'est que Dwayne Johnson, il a fait un film qui s'appelle Southland Tales. Il a fait des films. Non, mais à un moment, Dwayne Johnson a pris des risques en tant qu'acteur, et il a fait le truc de la fée de merde là, chez Disney aussi.
La fée des dents.
La fée des dents. Donc, c'est des trajectoires un peu classiques. T'es une montagne de muscles, on t'engage parce que tu ressembles à un bulldozer. Tu fais de l'action, t'es un peu reconnu. Ce pouvoir implique de grandes responsabilités. Tu peux en faire des trucs intéressants ou pas. Mais si tu fais des trucs intéressants une fois, deux fois, trois fois et que les gens n'en veulent pas, comment tu peux en vouloir à des mecs comme ça de pas redoubler d'efforts plutôt que de juste s'accrocher à ce qui marche? En fait, si les chroniques de Reddick avaient cartonné, La saga, on aurait eu le troisième qu'il voulait faire dans l'Underverse, on aurait eu la suite. On aurait aujourd'hui peut-être un Vin Diesel qui sera partagé entre Fast, peut-être qu'il y en aurait deux fois moins, et les chroniques de Reddick et peut-être autre chose. Il se trouve que les gens ont dit non à ça, les gens ont aussi dit non à Lumet. Il aurait pu avoir un bid en salle avec Sidney Lumet, mais être nommé genre au Golden Globe. Il aurait pu être reconnu, avoir un succès d'estime de la part de la presse, de la part de
l'a eu. Il a pas eu les récompenses,
ouais,
mais
de la part de la presse,
il a été un peu salué. Ça me semble que c'est un peu chiche quand même pour un Sidney Lumet quand tu t'es transformé comme ça.
Ouais, mais le film globalement a été considéré comme assez chiche.
Donc tu sais, je me dis, il y a eu quand même plusieurs passages entre 2003 et 2006 où il s'est dit ok, personne ne prend le relais de ça. Bah ouais, c'est sûr que par fainéantise, par paresse, par simplicité, mais peut-être avec une forme de candeur, de bah, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce que veulent les gens. Et régulièrement, son argument, qu'on peut trouver débile ou pas, c'est je donne au public ce qu'il veut. Alors c'est peut-être la pire chose possible au monde, mais il se trouve que c'est une des choses les plus efficaces au monde à Hollywood.
Et c'est quelque chose que Universal a fait avec Fast and Furious, à savoir que rien que le 4, le fait de ramener tout le casting originel, ou même le fait de, par exemple, de ramener Michelle Rodriguez dans le 5, alors que normalement elle meurt dans le 4, je crois, ou inverse, je sais plus exactement, mais voilà, à un moment elle crève et ensuite elle revient. C'est quelque chose parce que les fans avaient gueulé, ils voulaient que Michelle Rodriguez revienne, donc du coup ils l'ont fait revenir. Ouais. Et donc
Anne, ça a été pareil.
Personne n'a demandé pour Gal Gadot par contre.
Je sais pas, hein. Mais en tout cas, Vin Diesel, comme tu l'as dit, il a écouté le public, il a écouté les studios. On lui a dit bon bah tiens, ce qui fonctionne c'est ça, ce qu'on peut faire avec toi c'est ça, et le fait que il ait échangé les droits des chroniques de Reddick pour le caméo merdique dans Tokyo Drift. Il a fait les chroniques de Reddick, ça a été un échec. Il est apparu 10 secondes dans Tokyo Drift. Le monde entier a implosé parce que il était simplement derrière un volant, quoi. Donc, il a fait le calcul, à mon avis. Et puis, encore plus après, l'échec des chroniques de Reddick, le jugez-moi coupable qui a été pas assez bien estimé. et le Babylon AD qui a été probablement une de ses pires expériences de tournage de sa carrière. Je pense que, ouais, en fait, il en a eu ras-le-bol, il a cherché la facilité. C'est pour ça, quand je dis qu'il y a vraiment de la tristesse, parce que si, effectivement, comme tu le dis, si les Chroniques de Riddick avaient fonctionné, c'est très probablement le film, en fait, qui a complètement bouleversé sa carrière.
Et en même temps, enfin là, depuis tout à l'heure, tu vois, on voit aussi Fast and Furious peut-être comme le truc qui, comme ça a bouleversé sa carrière, on le voit un peu comme le démon, mais en même temps, Fast, dans la simplicité que ça a parfois de te donner ce que t'attends, dans le noyau dur qui est, je pense, après selon les préférences de chacun, mais en gros 5, 6, 7, enfin jusqu'à la mort de Paul Walker, tu vois, vraiment avec le sursaut énorme, improbable qu'il y a avec le 5 en matière de fun, et jusqu'au 7, de James Wan qui est le plus fou, le plus grandiloquent, et qui en plus est forcément le plus émouvant au vu de l'histoire qui est derrière, évidemment, très assumé mais dans son méta. Bah en fait, moi par exemple, je préfère le 5 parce que le 5, t'as ce truc de, tu sais pertinemment où le film va, mais il le fait avec tellement de générosité, il le fait avec, en se disant, c'est ça que tu veux, j'y vais en fait, et je mets les potards à donf. Tu veux que Dwayne Johnson il fasse le gros bœuf, le gros bœuf, et bah il va le faire. Tu veux qu'il se fight avec Vin Diesel, ils vont se fighter. Tu veux qu'il traîne un gros coffre dans les rues de Rio de Janeiro, ils vont le faire, et ils vont tout casser sur le passage. Et tu veux qu'il y ait des grosses scènes beaufs avec Gal Gadot qui doit se faire toucher le cul pour qu'il récupère des empreintes digitales, et bah on le fait. Et tu te dis,
j'avais
pour ça beaucoup
ça,
je l'ai pas demandé.
J'avais aussi oublié un temps.
Et oui, ça tu l'as pas demandé, mais c'est là, et tu te dis, ok. Et c'est un truc comme ça où Fast and Furious, pour le coup, dans ses meilleurs moments, a ce truc du plaisir communicatif, et qu'en plus t'as envie d'expérimenter en salle avec d'autres gens, ou t'as envie de ce kiff là, et qui aujourd'hui est tellement devenu une recette que tu l'as perdu, je trouve. Moi depuis le 8, j'arrive plus à ressentir ça, et pour 2-3 moments beaufs débiles, en fait tu dois te taper le tunnel de sérieux que le film se donne, qui est absolument insupportable. Mais dans ce noyau dur là, et je pense que Diesel l'a porté aussi là-dedans, c'est que t'avais cette énergie-là de trouver la bonne idée scénographique, le truc un peu débile mais qui était encore crédible, le truc, tu vois, qui restait encore ancré un petit peu.
Et de grands spectacles.
Et de grands spectacles.
Ouais, bien sûr. Et ça, alors par contre, là où je suis d'accord avec toi, à savoir que Fast and Furious, on le décrit, c'est vrai, plus ou moins comme le démon, mais encore une fois, 4, 5, 6, c'est vrai que c'est... 7 aussi.
5, 6, 7, oui, pas le 4.
Ok, bon, allez, admettons 5, pas 6, le 4. D'accord.
N'oubliez mais pas le 7, bordel.
Mais parce qu'il est repassé il y a pas longtemps à la télévision, et en vrai, hormis le fait que c'est celui où Paul Walker est mort, etc., je le trouve vraiment très, 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 très con, ce 7ème film.
Je vois pas où est la critique. Hein. Ouais, voilà, franchement, la scène où les voitures tombent du ciel avec la falaise, avec Paul Walker, là, et à Dubaï, bordel, mais rien que ça, moi j'achète le film en entier.
Ah ouais.
C'est hallucinant, mais je trouve
pour moi, là, t'as vraiment l'une des meilleures répliques dans le 7. Moi, t'es vraiment le combat final entre
Jason Statham et sur le parking, je pensais à ça, tu vois, quand je disais que c'était très con, tu vois.
Et donc, à la fin, vraiment, du coup, le parking est en train de s'étioler, et Vin Diesel regarde Statham en lui disant le truc avec les combats de rue, c'est que c'est la rue qui gagne toujours, et tu fais putain, c'est génial. Parce qu'en plus, il te le dit avec le travelling avant, tu sais, avec lui qui fronce les sourcils, tu dis, il y croit, mais à 100% en disant cette connerie, c'est génial.
Ouais, et c'est aussi, c'est exact, enfin, ça me fait penser à la phrase de Rocky dans Rocky 5 contre Tommy Gunn quand
mon
il dit
ring,
ouais,
c'est la
mon
rue.
Ring, c'est la rue, vraiment, je trouve ça aussi con, sans déconner. Hein. Mais donc, ouais, pour parler de donc, 4, 5, 6, 7. Je suis sûr qu'il s'est complètement investi là-dedans, et encore plus avec la mort de Paul Walker, etc. Genre, c'est vraiment un truc, comme tu l'as dit, cette idée de grand spectacle. Vin Diesel, à mon avis, a dû la porter, et le fait de ramener cet énorme casting qui est devenu en plus encore de plus en plus gros avec The Rock, Elsa Pataky, enfin, ils ont ramené tout un tas de personnes en plus dedans. Je suis sûr que Vin Diesel a dû pousser en plus, puisque il avait plus son Riddick à côté, il avait plus d'autres ambitions en fait que de faire du vroom vroom très très fort, et il l'a fait, et plutôt bien, quoi.
Puis là, on est en train de dire qu'il a plus son Riddick et tout, mais il y avait un autre film Riddick au bout d'un moment qui teasait, peu comme...
Il est en développement, oui. Depuis 10 ans, Riddick 4, qui s'appelle Furia, et censé arriver un jour ou l'autre.
Mais ils en ont fait un troisième, qui a été une galère aussi, et d'ailleurs...
C'est celui dont tu parlais, oui, je suis déjà passé, moi, dans le futur, ça y est, Riddick.
Non, moi, j'étais sur le prochain Riddick.
Je comprends pas.
C'est le prochain projet, là.
Ah oui, c'est le prochain projet. Il y a Riddick, ouais, voilà, 4.
Mais il n'a pas de date de sortie, il n'est pas tourné, ils sont à la phase 2, ils l'ont écrit deux fois, storyboard et tout ça, donc.
Et puis surtout, du coup, là, on a bien précisé qu'à part Fast and Furious, il a plus grand chose aujourd'hui, mais du coup, il est surtout investi dans des projets qui sont liés à lui, des franchises qui dépendent de lui, où il est producteur, ce genre de choses-là. Mais en fait, du coup, entre-temps, il n'y a eu qu'un seul film dans lequel il a joué Où il n'avait pas un pouvoir énorme, et c'est Un jour dans la vie de Billy Lynn, donc, qui est sorti en 2016. Et c'est le seul truc d'ailleurs, plus ou moins, qu'il a fait entre Fast and Furious et compagnie, tu vois. Et là, pour le coup, c'est ça qui est d'autant plus déprimant par rapport à ce qu'on dit, c'est que bon, bah, si aujourd'hui Vin Diesel est quelqu'un de compliqué avec qui travailler, c'est normal que les réalisateurs n'aient pas envie de venir vers lui, mais quand tu, par rapport à l'image qu'il dégage, surtout maintenant qu'il est quand même une superstar, c'est super intéressant que des réalisateurs intéressants viennent le chercher pour des contre-emplois. C'est exactement ce qu'il est dans Billy Lynn, parce qu'au départ, Billy Lynn est un film de guerre sur, du coup, cette escouade qui revient d'Afghanistan ou d'Irak, je ne sais plus, pour servir un peu de martyr et d'objet de propagande, parce que l'un des leurs dans l'escouade, qui est joué par Vin Diesel, est décédé, et tout le film est perçu par des flashbacks. Et ce qui est génial, c'est que tu te dis, bah, du coup, militaire, tu t'attends à Vin Diesel en chef d'escouade méga bourrin, et en fait, c'est tout l'inverse.
Pas du tout,
il est un peu bouddhiste sur les bords,
non mais ouais, il y a un côté très spirituel,
très
en tout cas,
spirituel. Ouais. Justement, il a un peu ce côté, on fait la guerre, mais il faut le faire presque de manière un peu éthique, tu vois. Il est à violenter le moins possible les gens, à dire à son escouade qu'il les aime un à un, tu vois. Il les met en ligne et il leur dit un à un, je t'aime. Et les mecs, comme c'est des mecs, évidemment, ils osent pas répondre en face. Et c'est l'un des arcs du film d'ailleurs, qu'ils apprennent à dire aussi je t'aime entre eux finalement. Mais t'as un truc très fort, et d'autant plus que. Donc c'est le premier film qu'Ang Lee tourne en 60 images secondes avec en 3D, 4K, avec cette envie de révolution. Et donc l'un des premiers plans de Billy Lynn, et je me demande même si c'est pas le premier plan du film d'ailleurs, c'est Vin Diesel que t'as en regard caméra, parce que t'es du point de vue de Billy Lynn et que Vin Diesel lui parle, lui met la main sur l'épaule, et que du coup c'est ça que t'as en 3D.
Le futur de la technologie passera par Vin Diesel.
Vin Diesel que t'as en face de toi qui te dit ça va, et tu fais ok d'accord.
Moi aussi je t'aime.
Oui, voilà, c'est ça. Mais il apporte un truc qui est super beau dans le film en fait, et qui est tellement justement magnifique parce qu'il y a un contre-emploi. Que je trouve en fait tu sors de là, et là pour le coup ça m'attriste, parce que tu te dis en fait il y a une place pour Vin Diesel en tant qu'acteur investi chez des grands cinéastes, y compris tu vois dans des enjeux technologiques aussi forts qu'un Billy Lynn, et non seulement bah, Billy Lynn a été un échec monstrueux au box-office, mais derrière il y a personne qui lui a proposé un rôle équivalent ou même un second rôle comme ça.
Et pour revenir quand même sur sa casquette de producteur, c'est regardons juste les scores de la saga Fast and Furious pour qu'on comprenne quand même la réussite hallucinant du truc. C'est que quand ça a commencé, c'était des petits films à 30, 50, 60 millions. On était dans les 200, 150, 400 millions à peine. Il y a un moment, à partir du 5e, en 2011, on passe à plus de 600 millions.
The Rock.
Celui d'après, plus de 700 millions. Fast and Furious 7, c'est 1,5 milliard au box-office. Le 8, c'est 1,2 milliard. Bon, depuis, ça redescend. Mais ça reste une saga complètement hallucinante. Charlize Theron, qui a rejoint la saga à partir du 8, c'est ça ?
8, ouais.
Elle dit, on lui a posé des questions sur pourquoi elle a rejoint la saga, qu'est-ce qui l'intéresse là-dedans et tout. Et elle est assez honnête. Elle dit, franchement, peu importe ce qu'on pense des films et de Vin Diesel, il a construit un truc qui est complètement hallucinant. En tant que producteur, c'est une réussite hallucinante. Il faudrait être complètement con pour le nier. Et je trouve que ça, c'est intéressant de te dire, voilà, il a basculé comme plein d'autres, comme Dwayne Johnson et comme plein d'autres, du côté producteur, businessman. Et de ce côté-là, on peut trouver que c'est de la merde et que ça donne envie de se flinguer la tête, mais ça reste une réussite commerciale qui est complètement unique et hallucinante, les Fast and Furious.
Financièrement parlant, c'est un mastodonte, c'est un phénomène complètement hallucinant. Et en lisant plusieurs interviews justement de producteurs ou même de réalisateurs à propos justement de ce switch qu'il y a eu au moment de Tokyo Drift et du fait qu'ils allaient rebooter la franchise en s'appuyant majoritairement sur la figure de Vin Diesel, tous les producteurs disaient ce que Fast and Furious a aujourd'hui réussi à faire en allant jusqu'à 8-9. Donc c'était avant qu'il y ait l'idée même que d'un dixième film, tous les producteurs et réalisateurs s'accordaient à dire que c'est, en bien ou en mal, mais une des plus grosses franchises d'Hollywood et un modèle, que ce soit en termes de casting, effectivement, d'un casting cosmopolite, multiethnique, ou en termes de représentation et de représentativité, on a quasiment tous les pans et tous les continents qui sont représentés. En termes d'affiche, comme je disais, on ramène The Rock, Elsa Pataki, Jason Statham. Enfin, à chaque fois, il est ramené encore plus de
Charlize Theron, Jason Momoa,
exactement.
Hélène Mirren.
C'était l'équipe de
convaincre Mirren, les gens. À l'époque, des chroniques de Reddick, il a été voir Judi Dench sortie d'une pièce de théâtre et il lui a dit :« Je veux que vous jouiez dans mon film. » Même si c'est un rôle de merde, il a dit :« J'ai rien compris au scénario, mais il était tellement sympa. » Je me suis dit :« Ok, tu sais, c'est comme un gosse, quoi. Il a un enthousiasme, il y croit à fond. » Et je suis sûr qu'Hélène Mirren, elle s'est dit :« Je vais m'amuser. » Elle avait fait Red, donc elle aime bien aussi. s'amusait dans des bagnoles pour pas faire que des trucs super sérieux pour avoir un Oscar.
Vraiment, il est mirette, donc elle voulait vraiment conduire. En fait,
mais du coup, tu disais, il y a un pouvoir d'attraction et je pense qu'il y a un respect qui est en plus légitime à Hollywood quand tu construis un truc comme ça. C'est que peu importe le film, c'est que du coup, bah, c'est pas que du carriérisme ou du cynisme, je pense, de la part de tous ces artistes. C'est aussi, putain, c'est quand même un truc un peu hallucinant. C'est comme foutre les pieds chez Marvel, quoi. Ok, tu peux dire que c'est de la merde, mais il y a un truc unique. C'est un peu dans les livres d'histoire, ok, il y a cette saga, c'est parti de. Une course de putain de bagnole dans les années 2000 et 10-20 ans après, on est au 10e, la fin, ils veulent la faire non pas en une mais deux parties, ce qui ferait 12 films et il y a des spin-off qui sont lancés en théorie, donc c'est mais où ça va s'arrêter quoi.
Et c'est très drôle qu'on voit ben justement où est-ce que c'est en train d'aller parce que ben, j'ai vu une interview de lui donc en 2001 à propos de tout premier Fast and Furious, juste après le premier Fast and Furious, il est interrogé par un journaliste. Et donc le journaliste, en gros, lui pose la question de des cascades en fait et ben, du fait de prendre des risques à propos ben, des cascades, chose qu'il avait plus ou moins pas encore fait en fait dans sa carrière à cette époque-là. Il parle de la fameuse cascade dans le film où, je sais pas si vous vous souvenez, mais il essaie d'aller sauver Vince, le type là justement qui a le bras accroché, et lui, Vin Diesel, se retrouve avec la moitié du corps dehors la voiture, exactement, avec en train de rouler.
Ce qui a donné l'un des meilleurs sketchs de Mosinor sur la cigarette.
Ouais, voilà. Exactement. Et donc, ben, alors qu'il a la moitié du corps dehors, donc il est en train de sauver le type, et il a dit, et il répond donc au journaliste à propos en parlant de cette scène, il dit « Quand j'ai fait la première prise, je me suis rendu compte que c'était une chose complètement stupide et dangereuse, mais le truc bizarre avec les films, c'est que une fois qu'on l'a fait une fois, si jamais les gens aiment ça, on se retrouve à faire ça encore 6 ou 7 fois. » Et il disait ça un peu pour rire, et donc risquer sa vie donc 6 ou 7 fois par défaut. Et juste après ça, il fait une blague en prenant un accent britannique un peu à la con, voilà, en disant bah oui mais si j'étais mort pendant le tournage de ce film, ben, j'aurais pas pu, enfin je pourrais pas être en train de vous parler à vous. Et donc le journaliste il rigole un peu avec lui, il passe à une autre question, mais déjà à cette époque lui en fait faisait une blague sur le fait de refaire ses cascades et de refaire ce délire des voitures 6 ou 7 fois dans sa carrière si jamais le film marche, mais il prenait tout ça comme une blague et en fait ben, l'histoire a montré qu'il avait totalement raison et il a fait ça 6 ou 7 fois, ou en tout cas il s'est arrangé pour ne pas avoir à le faire justement en refusant de tourner certaines scènes d'action, en engageant tout un tas de doublures et en trouvant de nouveaux moyens avec les effets spéciaux pour faire des trucs toujours plus hallucinants, toujours plus grandiloquents et toujours plus spectaculaires,
ouais,
toujours
plus débiles surtout.
Et ouais. Toujours plus débiles aussi.
Ça aussi, c'est que tu sens qu'il y a un peu une forme de piège, c'est que la surenchère, qui est un peu la note d'intention de la saga, en fait, c'est pas un hasard s'ils sont allés dans l'espace, dans celui, dans le 9, et que c'était même pas spécialement spectaculaire. C'est qu'en fait, tu repousses toujours les limites parce que le spectacle l'exige à la Fast and Furious, mais en même temps, c'est un peu le plafond de verre de la saga. C'est qu'à chaque fois, limite, t'es déçu en te disant, bah, ils peuvent pas dépasser ce qu'ils ont fait dans les 5, 6, 7, peu importe où tu places ton curseur personnel. Mais on va dire que le 6, 7, c'est sûr que tout le monde est d'accord pour dire que c'était un peu le haut. Et depuis, même si Dwayne Johnson arrête un missile sur un glacier, même s'ils vont dans l'espace, même si il dévale
s'accroche à un pont de bois avec sa putain de bagnole. Ouais,
ouais. En fait, c'est un peu la condamnation mort de la saga, c'est qu'ils ont touché un peu un sommet à Dubaï et toutes ces conneries parce que c'était super absurde et vraiment grandiloquent au maximum. Et depuis, j'ai l'impression que vraiment ils arrivent vraiment pas, surtout avec la bascule CGI totale où maintenant c'est vraiment moche. Et en plus, je trouve que c'est plus inventif, d'autant que la bascule se fait aussi au détriment de l'efficacité. C'est que maintenant, t'as l'impression que le spectacle de plus en plus est grignoté par les bavardages sur la famille et les pseudo-dramas. Les gens n'arrêtent pas de parler. Il y a de plus en plus de gens qui servent à rien. Et finalement, les cascades sont de plus en plus basiques. Et moi, j'en ai ras-le-bol de voir des putains de cascades sur des tronçons d'autoroute de merde en plein milieu de forêt. Genre dans le 10, j'ai l'impression que c'est une scène qu'on a vue 15 fois. C'est même plus inventif. Au moins dans le 9, c'est le 9 qui commence dans la jungle. Ou c'est le 8.
Possible, 9 qui commence dans la jungle.
Je confonds tout cela. Mais au moins, tu sais, ils changent un peu de décor. Tu dis, ok, on varie un peu, même si du coup. Voilà, il avait fait du ski dans la jungle. Bah, blah, et bon, maintenant, il fait des tarapages dans la jungle.
Le 9, il se remet jamais du début, en fait. Enfin, si, bon, les aimants à la fin, c'est rigolo. Mais,
ouais, mais c'est même pas si bien exploité, je trouve. Mais c'est tellement plus drôle avec les aimants, quoi.
Alors que justement, pour moi, tu vois, le 5, il y a ce truc où t'as l'idée du coffre et ils vont l'exploiter à donf. C'est vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce truc-là? Et ce qui est vraiment, pour moi, l'idée, enfin, ce que doit faire un bon film d'action, c'est de se dire j'ai cette idée, comment je l'exploite de toutes les manières possibles et imaginables pour que le spectateur soit rassasié à la
fin. Et surtout t'avais la sensation à la fin que tu pouvais retenir vraiment des morceaux du film. Genre moi quand quelqu'un me dit oh c'est comment Fast and Furious, on trouve des scènes, je vais sur YouTube et je tape scène de Fast 5 ou 7. Mais quelqu'un me demanderait mais le 8 et le 9, je dis mais je sais même pas quoi te montrer, il y a même pas de morceaux, il y a pas de set pieces qui sont super cool comme Mission Impossible et tout ça. C'est ça le problème de la saga. Mais bon, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que a priori Fast and Furious touche à soit une forme de fin, peu importe laquelle. Mais donc il a dit que le 10 était censé être la fin en deux parties. Il a déjà teasé que la deuxième partie pourrait être divisée elle-même en deux parties, ce qui ferait donc qu'on aura encore deux Fast and Furious officiels pour toucher à la fin. Mais en tout cas, l'horizon de la fin est plus ou moins proche, parce que les spin-offs et tout ça, on n'en sait pas plus. Son parcours chez Marvel, a priori, est terminé, puisque Groot, je ne sais pas s'il va revenir. En plus, je ne sais pas vraiment si on peut compter sur grand-chose de ce côté-là. À un moment, il y a plus ou moins la rumeur qu'il avait lancé avec un post sur Instagram qu'il allait rejoindre Avatar. En fait, il n'a pas rejoint Avatar. Il a juste dit « Je vais visiter les plateaux », les gens ont mal compris. Ouais, bien sûr. T'essayes de convaincre James Cameron de t'engager pour jouer un arbre ou je ne sais pas quoi dans son film. Donc, qu'est-ce qui lui reste? Qu'est-ce qui reste à Vin Diesel aujourd'hui? Sur quoi on peut compter?
Triple X, mais encore faudrait-il qu'il y ait un 4.
C'est même pas officiellement.
C'est mort et enterré, à mon avis.
Non, je pense pas que c'est mort et enterré. C'est des trucs qu'il a déjà dit. Les suites, on m'a demandé, on le fera un jour.
Mais bon, allez, peut-être qu'il faut un
préquel. C'est pas du tout daté, quoi.
Mais bon, c'est déjà tellement les fonds de tiroir, tu vois, des studios qui se disent, bon, bah, on va relancer des franchises. Et Triple X 3, ça a plutôt bien marché, mais grâce à la Chine.
En théorie, sans ça. Il y a eu des suites du dernier chasseur de sorcières, de Triple X et de Bloodshot qui pourraient être possibles. Oui. C'est pas impossible. On a Furia donc, qui arrive, évidemment, ça fait donc 10 ans qu'il en parle. Dans celui-là, il va retourner sur sa planète d'origine en tant que Furien, va rencontrer d'autres Furiens qui ont été détruits, la civilisation est dans la merde, et vont affronter un nouvel ennemi. Mm-hmm. Donc ça fait des années qu'il en parle, il s'y accroche parce qu'il n'y a pas grand-chose et que les gens aiment, donc il entend bien sûr que les fans sont contents, hein, et s'en serait au stade de pré-production, storyboard et tout. Donc a priori, ça va arriver, mais ça fait quand même maigre, tu vois, horizon, à part les tonnes de Fast and Furious.
Ce serait, pourquoi pas, l'occasion justement de relancer la saga de Riddick en fait, et éventuellement de signer la fin du Riddick avec Vin Diesel et d'éventuellement préparer l'avenir avec conserver cet univers-là, mais d'exploiter le personnage de Riddick ou un autre éventuellement, que ce soit Jack ou peu importe les personnages de cet univers, mais dans des spin-offs ou d'autres films éventuellement, mais en tout cas que ce soit la fin du personnage de Riddick, encore plus du fait que il boucle la boucle, il retourne sur sa planète qu'il a quittée, qu'il a jamais vraiment connue. On connaîtra enfin les origines du personnage de Riddick, quelle est cette planète Furia, d'où lui vient cette puissance bestiale. Enfin, à mon avis, j'espère que ce sera le dernier film pour Vin Diesel et pour Riddick, mais le début de quelque chose d'autre pour cet univers-là. Parce que par contre, si jamais ça signe la fin des deux, ce serait vraiment très encore plus triste en fait.
Et vous avez de l'espoir, sinon en fait, vous pensez qu'il pourrait une cinéaste pourrait le rechoper, lui donner un bon rôle? Est-ce que vous pensez qu'il y a un truc qui est fini à son âge, à ce stade de la carrière, ou est-ce qu'il peut y avoir une petite étincelle?
Il faudrait qu'il y ait Ang Lee en fait, quelqu'un comme ça qui lui donne un rôle. Aujourd'hui, qui y a Hollywood
Spielberg,
des gens avec qui
j'aimerais bien que Spielberg éventuellement justement retourne le voir en lui disant est-ce que éventuellement tu veux pas jouer un type dans son prochain biopic sur je sais pas qui,
ou même si à la rigueur c'est pas forcément du côté de grands cinéastes ou de films d'auteur, mais même juste refaire du blockbuster comme il a toujours su en faire, peut-être s'écartant un petit peu des trucs d'action Dominique Toretto et tout, mais moi ça me dérangerait pas de le revoir plonger là-dedans, mais dans une bonne franchise.
Peut-être en fait il faudrait qu'il redevienne, en fait j'ai l'impression qu'il pourrait deux directions qui pourraient être intéressantes, c'est soit il redevient simple acteur au service d'une franchise, d'un cinéaste, d'un studio, et il ferme sa gueule, soit il redevient réalisateur, ce que Spielberg visiblement lui dit de refaire. Parce que, alors, on peut ne pas oublier qu'il a fait quand même un court-métrage en DTV pour Fast and Furious pour faire le préquel du
Los
4,
Bandoreros.
Voilà, où il a... Bon, pareil, tu sais, il a fait ce truc-là, je suis pas sûr qu'il avait contractuellement besoin de le faire. Il a voulu diriger les gens de la saga autour de lui, donc il a écrit, réalisé, interprété, il a ramené la bande, et il l'a fait pour Universal, tout le monde s'en fout a priori, mais il l'a fait pour les fans, pour lui, pour le plaisir, donc peut-être qu'un jour il redeviendra réalisateur, fera un film, où il pourrait ne pas être acteur d'ailleurs, encore une fois un peu lâché du lest, mais... Voilà, je veux les deux directions qui seraient un peu intéressantes, parce que qui aujourd'hui voudrait se frotter et foutre un Vin Diesel au milieu de son film, parce qu'il amène tellement de trucs, surtout si les producteurs avec sa boîte de prod et tout, c'est compliqué de manier
ça,
la bête
en fait. C'est qu'aujourd'hui tu peux plus juste engager Vin Diesel en tant que, comme tu le disais, simple acteur en mode tiens je te donne mon scénario, tu débites tes lignes et puis rien de plus quoi.
Alors peut-être sur Ang Lee c'est ce qu'il a fait, mais
mais en tout cas Vin Diesel à mon avis c'est quelque chose qu'il a plus du tout envie de faire en fait. Je pense que dans sa tête ça doit le ramener justement à ses tout débuts, où en gros c'était un petit moins que rien qui se contentait justement de débiter ses lignes avec de scénarios et rien de plus. Aujourd'hui, après avoir eu un tel pouvoir décisionnaire sur les productions de beaucoup de projets, y compris certains dans lesquels il n'a même pas joué, parce qu'on en a pas parlé, mais tu parlais de son parcours de producteur, dans les années 2000, au milieu de tout ce des triple X, Fast and Furious, etc. Il a produit Hitman, il a failli jouer dans Hitman, il devait être le Hitman de Xavier Jeance normalement, avant de finalement abandonner le projet et que ce soit Timothy Olyphant. Comme quoi, ces deux-là, ils sont reliés. Hein. C'est
ah ouais, il faut qu'ils fassent un film ensemble, putain.
J'achète, vraiment, je paye pour voir ça. Mais donc ouais, il a produit le Hitman, donc sur Terre 2, Vin Diesel et Hitman. Voilà. Et
il a aussi été dans Terminator 3, parce qu'à un moment, son nom sortait pour être le méchant de Terminator.
Oui, absolument.
Voilà, et, sachez.
Mais ouais, et donc il a tout un tas de projets, justement, dans lesquels il a été impliqué. Et je pense qu'aujourd'hui, être simple acteur ne lui conviendrait plus du tout, parce que c'est pas quelque chose dont il a envie. Il veut être impliqué, il veut soit écrire le scénario, soit m'a réalisé non, parce qu'il n'a pas retouché à une caméra depuis très 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 longtemps. Mais en tout cas, avoir un pouvoir décisionnaire dans la production du projet, c'est quelque chose pour lui qui est presque obligatoire, à mon
mais
avis.
C'est pour ça qu'il ressemble beaucoup à Don Johnson. Quand je vois les deux, je me dis ça rend la même
ou
parcours.
Stallone.
Et ouais, mais du coup, je pense que la différence avec les Stallone, les Schwarzenegger et tout, c'est que eux, ils ont tous à un moment croisé un peu une bonne étoile qui était soit eux-mêmes, soit un grand cinéaste, quelqu'un qui les a poussés. Je vois, tu sais, ils ont tous à un moment croisé un Verhoeven, un McTiernan ou créé leur chance avec un film qui était. Tu vois, Vin Diesel, en fait, il serait vraiment comparable s'il avait fait un premier film ou un deuxième film en tant que réalisateur qui était un truc plus énorme que Strays. Enfin, Strays, tu vois, c'est quand même un peu anecdotique, c'est sympathique.
Qui aurait été un Rocky typiquement.
Voilà. Et en fait, lui et Dwayne Johnson, c'est ça qui leur manque, c'est de croiser la route de quelqu'un qui va vraiment les utiliser de la bonne manière, en faire quelque chose, vraiment tirer quelque chose d'eux. Et en fait, ils sont tellement, j'ai l'impression, dans leur ego, dans un narcissisme, c'est avec leur boîte de prod, qu'en fait, ils sont à la course, dans une course à la franchise. Quand tu regardes Dwayne Johnson, sa filmo, c'est hallucinant, c'est que des embryons de franchise avec sa boîte de prod, Seven Pounds, ou je sais pas quoi là. Et, pas Stallone, et comment il s'appelle ? Vin Diesel. Vin Diesel, c'est pareil, tu vois. Les derniers chasseurs, même Riddick, tu vois, j'aime beaucoup Riddick, mais du coup, c'est toujours une logique de rentabilisation, de franchisation, qui est peut-être aussi parce que aujourd'hui c'est le contexte, l'obligation Hollywood, donc c'est même peut-être juste les symptômes d'un truc qui est plus grand qu'eux. Mais c'est ça qui est un peu triste, où t'as l'impression qu'ils sont un peu dans une impasse, parce que bah, c'est quoi la prochaine franchise et comment avancer, quoi.
Par contre, il y a quand même un truc qu'il a depuis ses tout débuts, après les Strays, justement, à l'époque des Fast and Furious Triple X, où il voulait faire un film biopic sur le général Hannibal Barca. Et c'est quelque chose, normalement, il devait le faire sous la houlette de Ridley Scott au début des années 2000, ce qui ne s'est jamais fait, malheureusement. Et régulièrement, toutes les 4-5 ans, on lui pose la question, justement, de ce projet de « Est-ce que votre film sur Hannibal, vous allez le faire ?» Et lui, il n'en démord pas, il veut absolument faire son film sur Hannibal, parce qu'il est fasciné par l'histoire de ce gars qui a... qui a conquis le monde, qui a fait traverser des éléphants à travers les Alpes. Et il veut absolument faire son film. Je ne sais pas s'il le fera un jour, mais s'il y a un des projets sur lesquels je miserai, moi, à l'avenir de Vin Diesel, c'est celui-là.
Bon, du coup, on fait quoi sur ce Vin Diesel ? Parce que j'étais en train de me dire, c'est hyper intéressant, mais on a déjà fait un portrait écrit qui a super bien marché. Je crois qu'il a fait plus de 100 000, mais en fait, la dernière fois que j'ai mis à jour pour Fast 10, bah, il n'y a pas grand-chose à rajouter, en fait, parce que les conclusions qu'on avait fait il y a 2-3 ans sont toujours les mêmes. Il y a beaucoup de questions, à part mettre à jour qu'il n'est pas dans Avatar 2, que, en fait, la suite, ce sera en deux parties. Ouais, j'ai envie de dire, on pourrait faire une vidéo un peu à la Don Johnson et Tom Cruise, mais les scores étaient pas ouf sur YouTube, donc
ça ferait un super sujet de podcast.
Ouais, après il est assez doux, pourquoi pas.
Voilà. Et puis du coup, ben comme d'habitude, on pourra peut-être demander aux gens de s'abonner, de laisser des commentaires, nous mettre 5 étoiles, aller lire le site, dire qu'on est super, ce genre de truc.
Ok. Bon, ben on fait ça.
Allez.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with Host Red sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book Host Red sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.